Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Les vraies voix, aujourd'hui, en mode Bab. Pas Baba Cool, mais vous allez comprendre pourquoi Bab. On commence avec une vraie voix bigourdane, Bab. Avec un B comme bigourdane. Françoise de Gouet, éditorialiste Sud Radio et LCI, auteur de L'homme qui n'avait pas d'amis, publié chez Plomb.
Ce qui n'est pas votre cas. Bonsoir. J'aime pas trop votre regard fourbe en début d'émission, mais ça va. Vous êtes supportable pour le moment.
Oh bah tant que ça reste comme ça, c'est parfait. Après le B de bigourdane, des vraies voix avec un A comme alsacien, comme Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, auteur du livre « Libre propos d'un inclassable » publié à la Nouvelle Librairie.
Ah d'accord, je viens de comprendre.
Ouais, Béarn après, c'est le Bab, Béarn.
Ah eh ben, oui. D'accord.
Bah oui, mais Bab, ça veut dire, c'est aussi Bayonne,
Anglet-Biarritz. Absolument. Avec le Bab. La communauté d'agglomération,
Je préfère les présentations plus hyperboliques. Si Françoise, vous pouvez lui dire ce que ça veut dire.
Alors, hyperbolique, ça veut dire... Non, faut pas le pousser là-dedans.
Faut que je dise du bien de vous, en clair, c'est ça ?
Oui, mais avec un caractère céleste, un côté céleste
que je ne suis... Ça ne me gêne pas.
Je ne suis pas certaine que vous possédiez.
Génie absolu de la pensée universelle,
c'est pas mal.
De la philosophie, de la physique, de la chimie...
C'est bien.
De la littérature, de la poésie, Philippe Bilger. Ça va, c'est assez hyperbolique.
Qui va rester pour Olivier ?
Tu sais que Léonard de Vinci était son élève, à Bilger.
Ah oui, absolument. Mais pas que, Mozart aussi.
Non, mais c'est lui qui lui a appris le piano. Léonard, surtout.
Et enfin, le B de Béarnais. Voilà. Ça vous va ?
C'est très bien.
Comme Olivier d'Artigol, chroniqueur politique de gauche. Ça vous va bien, Béarn ? Vous n'êtes pas un peu basque par hasard, mais le B irait aussi.
Surtout que je suis en fait girondin, mais tout ça n'est pas très grave.
Bah, en ces cas-là, ça donne bague comme un sac en anglais.
Je suis gascon.
Il est en train de foutre en l'air tout ton truc.
Oui, tout est.
Super.
C'était un château de cartes.
En vrai, oui, c'était la maison du
cochon. Tant que ce n'était pas des châteaux en Espagne.
Ah,
il y a deux chroniqueurs de gauche, mon Dieu, Sud Radio se dévoie un peu.
Ah ben Sud Radio, on parle au vrai, on donne la parole à tout le monde sur Sud Radio.
C'est un quasi-putsch.
Absolument.
Bah, ça rattrape le reste. Ça rattrape les jours et les années entières, si tu veux. On rame tout seul avec des plateaux de 5 personnes. Ah, ça fait du bien d'avoir Olivier d'Artigol.
C'était tellement bien avant.
Bon, en termes de liberté de ton, ça on peut franchement rien nous reprocher.
C'est
nos deux grands débats, 17h30, boycott de certains sponsors de l'équipe de France. Comprenez-vous, Kylian Mbappé, il a refusé d'aller au shooting, aux prises de photos d'hier, parce qu'il est choqué par certains sponsors qu'il a refusé de représenter à l'époque. Alors dans le tas, il y aurait Coca-Cola et Uber Eats notamment. Est-ce qu'il a raison ? Pour des raisons éthiques, en disant que, par exemple, je pense qu'on peut deviner qu'au prix où sont payés les livreurs Uber Eats, on ne peut pas franchement parler de progrès social.
Non, mais est-ce qu'il y a aussi les sites de paris en ligne aussi ?
Absolument, mais on développera tout ça lors du débat. À 18h30, notre grand débat, ça ne bouge pas, on est à 30% d'abstention sur le Rolling. Je vous donne, c'est le premier chiffre du Rolling qui tombe. Craignez-vous une abstention massive pour la présidentielle ? Vous voulez réagir ? Le 0826-300-300 et les réseaux sociaux ? Je parie que le Rolling vous rend stone, les vraies voix.
Elle est bien. Non, mais elle est bien.
Vous voulez connaître les résultats du jour ?
Elle est bien. Non, mais elle est bien. Oui. 10 centimes, ça vaut ça.
Elle n'est pas généreuse. La gauche n'est pas très généreuse.
30 centimes, on n'a pas d'argent non plus en même temps.
On donne ce qu'on peut.
Je viens de la comprendre. Je suis très en retard ce soir.
C'est pas open bar.
Ah, il n'a pas capté Rolling Stone.
Ce soir, Philippe Bilger.
Non, mais.
Ce soir, Philippe Bilger.
Je suis en retard là ce soir.
Ce soir, Philippe Bilger a le cerf-volant.
Est-ce que. Oh là là.
C'est parti.
Sud Radio Parlons Vrai, présidentielle 2022.
Et ça bouge dans le quintet de tête. Ça ne bouge pas pour Emmanuel Macron, qui reste stable à 28%. Derrière, Marine Le Pen continue à monter. Elle gagne 0,5% et elle est la première candidate, évidemment outre Emmanuel Macron, à atteindre le seuil des 20%. Juste derrière, Jean-Luc Mélenchon est de plus en plus solide à la troisième place. Il gagne 0,5% à 14%. Éric Zemmour est à la quatrième place, mais il continue à baisser. Il perd 1,5% à 12%, tandis que Valérie Pécresse remonte à 11% en gagnant 1,5 point. Alors Fabien Roussel, ça ne va pas faire plaisir à Olivier d'Artigol, perd 1,5 point à 3,5%. Et ce sont tous les mouvements du jour. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Bilger ? Maintenant, le trio de tête est trouvé. On va dire Macron, Le Pen, Mélenchon, c'est le podium comme aux Jeux Olympiques ?
J'ai tendance à dire oui. Je constate tout de même que l'écart entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen se réduit. 8, c'est pas grand-chose, hein, en définitive, pour un premier tour.
Il était de 12,5 il y a une semaine.
Pour un premier tour où le président s'est facilité la tâche, a accumulé les opportunités d'être le seul et bénéficie, si j'ose dire, de son rôle capital pour l'Ukraine. Donc je crois que le trio de tête, tout de même, me semble bien installé, même s'il reste combien de semaines, un peu plus de
18 jours, je crois, aujourd'hui.
18 jours.
Françoise de Gois.
Oui, alors après, la bataille fait rage. D'abord, bon, moi je ne crois pas que Mme Macron finira à 28. Je pense que c'est d'ailleurs assez dangereux de le tambouriner tous les jours comme ça à 28.
J'ai le souvenir... Moi je donne le rolling. Hein.
Non mais c'est pas... Pourquoi vous sentez, pourquoi vous ramenez tout à
Parce
vous
Parce que vous
en
dites
permanence.
Toujours que je suis torve et fourbe, c'est
non,
pour ça.
Non mais là, c'est pas vous, là, en l'occurrence. J'ai le souvenir, on avait les mêmes délires avec le rolling régional où tous les jours on donnait 6 régions à Marine Le Pen. Résultat des courses, 4 ou 5. Non, parfois, il y en a une sixième qui pouvait basculer en Bourgogne. Résultat des courses, elle a terminé avec un électorat qui l'a lâché. On a tous écrit, à juste titre, que c'était un échec cinglant, alors que l'échec eût été peut-être moins cinglant si on ne l'avait pas annoncé. Moi, je ne crois pas qu'Emmanuel Macron sera à 28, ni 29. Je pense qu'il va être en dessous. Et même si, parce que ça va se réduire, parce que l'effet drapeau va fondre, parce que ça fond toujours. Et puis, dans le secret des urnes, il y a des choses qui vont se rééquilibrer. Après, la bataille va faire rage, évidemment, pour le ticket d'entrée au second tour. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, on verra. Pour le moment, on voit bien que le vote utile est en train de fonctionner pour Marine Le Pen. Elle dépaisse jour après jour, tranquillement, Éric Zemmour. On sent bien que c'est
ça. Là, il y a 8 points d'écart entre deux. C'est énorme.
Voilà, donc on sent bien qu'on ne voit pas comment Éric Zemmour, malgré son rassemblement du Trocadéro, les places pleines ne font pas les victoires aux élections. Même
François
si
Fillon pourra confirmer.
Oui, mais tout le monde, Ségolène, elle a fait 80 000 à Charletti. Bon, ben, elle termine 47-53, donc c'est pas ça le sujet. Ça dit un élan, mais et puis on verra Jean-Luc Mélenchon dans le secret des urnes. Pour le moment, ça fonctionne pas encore tout à fait le vote utile, mais je pense que dans le secret des urnes, on verra.
Olivier d'Artigol, ouais, le podium est définitif.
Depuis quel temps, et ça a été renforcé par les échanges que j'ai eus sur Pau, dans mon activité militante, ce week-end, je pense qu'il va se passer quelque chose. Je n'en sais pas la nature, ni l'intensité. Mais je crois que tout ça, les sondages qu'on nous donne, il faudra peut-être reconsidérer tout ça. Il va se passer quelque chose. Est-ce que ça va être une abstention à un niveau spectaculaire? Est-ce que ce sera Emmanuel Macron qui aura été ô combien surévalué dans ses enquêtes d'opinion? Est-ce qu'il y aura une percée de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon? Bref, je pense qu'il va se passer quelque chose, que les électeurs... vont d'une manière ou d'une autre exprimer quelque chose. Exactement comme il y a pu y avoir des irruptions sociales de type gilets jaunes, des choses qui n'étaient pas dans les radars. Je crois qu'il va, peut-être que je me trompe, mais qui peut se passer quelque chose dont on ne sait pas aujourd'hui exactement la configuration que cela va prendre.
On peut même aller jusqu'au bout. Alors, je sais que Philippe va se récrier, peut-être Olivier, mais il peut se passer une difficulté même pour Emmanuel Macron le soir du premier tour. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est surévalué. Si vous avez une percée spectaculaire de Marine Le Pen, une percée de Mélenchon ou un retour de... Mais qu'est-ce qu'on sait, en fait, de l'électorat d'Emmanuel Macron? Le truc spectaculaire, c'est qu'il ne soit pas au second tour. Moi, je pense quand même que...
Là, ce serait vraiment une...
Ça serait un ébranlement total. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Le fait qu'il ne soit pas au second tour ne me gêne évidemment pas. Mais on l'annonce tellement haut et ça allait être d'une telle évidence. Et il se met dans la situation tellement évitante, finalement, de ne préparer qu'un second tour et de ne faire de cette présidentielle qu'une formalité. Eh bien, je rejoins Olivier d'Artigol, mais je sais que Philippe n'est pas loin de penser, peut-être pas qu'il ne sera pas au second tour, mais n'est pas loin de penser que, quand même, les Français, à un moment donné, c'est un peuple extrêmement politique. Et je pense que les Français, dans le secret des urnes, en gros, je l'ai déjà dit ici, mais je le redis, je ne sais pas ce qui se tambouille dans le fond de la marmite française. Et je crois qu'aucun sondeur intelligent peut le dire, quoi.
Le mot de la fin, Philippe Bilger, qui est un spécialiste de marmite.
Non, mais franchement, Françoise a toujours des intuitions assez pertinentes, mais je n'imagine tout de même pas une seconde, là, qu'Emmanuel Macron ne puisse pas être qualifié au second tour.
Les vrais voix.
Mais
On n'imaginait pas le Brexit, on n'imaginait pas Trump, on n'imaginait pas...
Moi, je trouve qu'on est quand même exactement des ans tu vois, Philippe...
Olivier, Trump, je l'ai imaginé très bien.
Ouais, ouais. Mais je crois que ce que dit Olivier, c'est que je ressens absolument, mais enfin, ça fait longtemps qu'on le dit tous les deux, mais je ressens cette, comment dirais-je, on est dans une configuration Brexiteur, on est dans une configuration Trump, non, mais Brexit surtout. Moi, ce que ça m'inspire, c'est vraiment l'idée de Brexit, Macron peut-être au second tour certainement, mais à quel prix et à quel niveau, ça c'est un vrai sujet.
On va pas parler de Brexit, mais on va faire le rolling seat maintenant pour passer dans quelques instants au tour de table de l'actualité. Je vous rappelle notre débat de 18h30, boycott de certains sponsors des Bleus. Comprenez-vous Kylian Mbappé ? Eh bien vous êtes 58,3% à dire non. Vous voulez réagir, le 0826-300-300 et les réseaux sociaux.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degouet, Olivier D'Artigol, c'est l'heure des tours de table de l'actualité.
Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table.
Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste.
Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent.
Le tour de table
de l'actualité.
Et Philippe Bilger, vous vous étonnez du peu de bruit sur l'affaire McKinsey.
En effet, Philippe, et le hasard fait que ce matin sur Sud Radio, Patrick Roger a questionné Jordan Bardella, en particulier sur cette affaire et sur le rapport qu'elle pouvait avoir avec les débuts de la Macronie et le mandat présidentiel d'Emmanuel Macron. Je continue à être tout de même étonné par le peu d'impact politique et médiatique de cette affaire qui, je viens de le dire, a permis à McKinsey d'avoir un rôle important dans les débuts de la Macronie et dans l'organisation de sa campagne, et bien sûr tout au long du mandat. Une chose m'étonne tout particulièrement, c'est le sentiment qu'a eu Bruno Le Maire, qui est tout de même un ministre compétent et je trouve intelligent, évidemment, d'avoir débarqué dimanche dernier au sein d'une affaire qu'il semblait découvrir. Alors que j'ai pu apprendre aujourd'hui que lorsque une société comme McKinsey souhaite obtenir un marché public, elle est obligée d'attester qu'elle est à jour de tous ses paiements d'impôts. Alors, je ne comprends pas. Il y a une atonie judiciaire. J'aurais été procureur, je me serais au moins posé des questions, même à partir de ce qui est dit aujourd'hui. Et pour le reste, je me demande si tout de même Emmanuel Macron, contrairement à ce qu'on prétend, ne jouit pas d'une sorte d'indulgence médiatique qui apparaît choquante par rapport à celle dont Nicolas Sarkozy pâtissait, ou même François Hollande pour faire plaisir à Françoise.
Françoise Degouet sur McKinsey.
Écoutez, c'est accablant dans un monde normal, dans une campagne normale.
C'est vrai qu'en termes d'argent, c'est beaucoup plus que Pénélope Fillon et ça fait beaucoup moins de bruit.
Donc, je finis. En termes, si on était dans une campagne normale, ça ferait la une de tous les journaux. On est à 1 milliard de forfaits, mais surtout, j'aime l'élégance de Philippe Bilger, mettons clairement les pieds dans le plat. Vous savez, je vous invite à lire dans Marianne le papier de l'interview de Mathieu Aron, qui a écrit l'excellent bouquin sur les infiltrés. Mathieu Aron rappelle un fait très simple. Karim Tajeddine, qui est le patron de McKinsey, est un des plus proches d'Emmanuel Macron. Ils ont siégé ensemble à la commission Attali. L'un a dédicacé et a préfacé les livres de l'autre. Karim Tajeddine était dans le staff de campagne d'Emmanuel Macron en 2017, c'est extrêmement grave. Quand ce même cabinet de conseil, comment dirais-je, qu'il dirige, se retrouve à la tête de marchés d'État complètement délirants, pouvant dépasser 100 millions d'euros, ça s'appelle un scandale d'État. Ça s'appelle véritablement une affaire d'État. Philippe Bilger a raison de le dire, moi. Je vois sur mes abonnés Twitter, bon, j'ai 65 000 abonnés, c'est pas beaucoup, mais c'est pas mal quand même.
C'est déjà beaucoup.
Eh bien, j'ai tweeté le papier de Mathieu Aron, hein, simplement. Vous savez combien il a été lu
non.
dans la journée depuis ce matin
non.
125 000 fois. 125 000 fois. Il n'y a pas que des communistes, des insoumis et des socialistes hein, qui sont sur ma tweet line. Donc je veux dire que ça veut dire qu'il y a une soif de vouloir ça. C'est pas une vue de l'esprit, genre les réseaux sociaux parlent aux réseaux sociaux. Ça n'est pas vrai. C'est gravissime. Et la façon dont on ne traite pas cette affaire, dont on invisibilise tout ce qui pourrait déranger Emmanuel Macron, là encore, Philippe Bilger est extrêmement bien élevé. C'est absolument volontaire et on appelle ça la servitude volontaire.
Olivier D'Artigol, c'est vrai que ça fait peu de bruit.
C'est l'une des tendances fortes des réseaux sociaux. Bravo à la commission d'enquête, Éliane Assassi et les sénateurs qui l'entouraient.
Attendez.
On fait un travail formidable de pugnacité. Moi, j'ai beaucoup suivi cette commission d'enquête et les auditions. Certains représentants de McKinsey ont passé un mauvais quart d'heure face à des questions précises, instruites des parlementaires. Alors, bien sûr, moi, on ne découvre pas ces relations très étroites entre la start-up nation de Emmanuel Macron et ses milieux. Là, ils sont pris la main dans le sac sur des sommes considérables pour des travaux qui ne sont ni faits ni à faire, pour rédiger des attendus de projets de loi qui, bien évidemment, relèvent du travail que peut faire aujourd'hui notre administration avec des compétences, avec tout ça est insupportable. J'espère qu'il y aura des suites. Il y a déjà des personnes qui ont menti devant la commission parlementaire. Il y aura donc, j'espère, un travail, une poursuite. Mais j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à aller voir de près ce dossier-là, ils verront la gravité de ce qui s'est passé. Parce que c'est de l'argent public qui est soustrait alors qu'on en avait tant besoin.
Justement, Philippe Bilger, comment est-ce que vous expliquez ce silence, j'allais dire ces pudeurs de gazelle?
Mais d'abord, au-delà d'Emmanuel Macron, je pense que nous avons des institutions qui ne sont pas assez courageuses. Je veux dire, ce qui me frappe, c'est qui est-ce qu'il disait récemment à propos d'un projet, au fond, trop souvent la France, dans ses structures, n'intervient qu'après le scandale, et encore pas toujours la preuve. Mais on est très frileux sur le plan de l'inquisition démocratique. Et je crois que, en plus, lorsqu'un président, à tort ou à raison, a relativement dans sa main les forces qui pourraient lever les chapes de secret et de silence, vous imaginez ce que ça donne. C'est un vrai désert.
Françoise Degout et Olivier D'Artigol, court.
Je pense qu'on n'a jamais atteint un tel niveau, si vous voulez, de complaisance à l'égard d'un président. Jamais, je dis bien jamais. Une complaisance qui est coupable parce qu'elle escamote totalement le débat démocratique au sens premier du terme, au sens du prestidigitateur, vous voyez, qui enlève de vos yeux la chose. Et je crois que on s'en mordra les doigts. Il faudra vraiment faire un retour d'expérience sur la façon dont s'est déroulée cette campagne présidentielle. Mais encore, je le dis, rien n'est joué. S'il vous plaît, réfléchissez bien avant de voter.
Olivier D'Artigol, brièvement.
Non, je suis d'accord. Et puis les contre-pouvoirs, en l'occurrence, là, le Parlement qui a fait un magnifique travail.
Dans quelques instants, notre premier...
Les communistes, il faut le dire. Parce
c'était Éliane Assassi, oui.
Elle a été exceptionnelle dans sa façon. Moi, je me suis régalé.
Je suis m'auto-censure.
Elle est communiste.
Mais c'est vrai, elle est communiste. Elle a été d'une précision. On aurait dit Philippe Bas dans l'affaire Benalla. Oui, c'était aussi vrai, précis, c'était parfait, sans s'énerver. Moi, je me suis régalé. J'ai regardé les vidéos. Allez les regarder, c'est fantastique.
Ce sera toujours très loin d'un niveau de Philippe Bilger, soit dit en passant.
Ah non, mais je ne savais pas qu'elle est. Je ne savais pas qu'elle était communiste. Je m'apprêtais à dire du bien d'elle.
C'est la présidente du groupe.
La preuve qu'on parle vrai dans les vraies voix. Tout de suite, notre premier débat. Boycott de certains sponsors de l'équipe de France. Comprenez-vous Kylian Mbappé? Eh bien, vous êtes 59,7% à dire non. Vous aimez le football? Ça vous choque? Ça vous choque pas? On va en parler avec quelqu'un qu'on connaît bien, Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
D'habitude, il fait le buzz par ses buts d'anthologie et ses actions de génie. Là, c'est pour un coup d'éclat, mais hors du terrain, Kylian Mbappé, a refusé de participer au shooting, c'est comme ça qu'on maintenant on dit une séance photo, avec l'équipe de France pour les sponsors. Le footballeur en ayant refusé certains pour des raisons d'éthique, il les avait refusés à titre de sponsor personnel. Deux de pose a priori problème, notamment Coca-Cola et Uber Eats. De plus, il voudrait être assuré qu'une partie des recettes liées à ces shootings sera reversée au football amateur, je le cite, aussi bien des banlieues que des campagnes. Alors certains coéquipiers se posent des questions, donc d'autres joueurs de l'équipe de France, suite à cette action. Mais cela pose aussi la question, si on pousse l'éthique jusqu'au bout, est-ce que Kylian Mbappé et l'équipe de France doivent aller jouer la Coupe du Monde au Qatar ? Et Kylian Mbappé est payé par le PSG qui appartient au Qatar. Je tiens à dire une chose pour conclure. Depuis son arrivée en équipe de France, Kylian Mbappé est le seul joueur à avoir reversé tout l'argent perçu chez les Bleus à des œuvres caritatives. Je prends un exemple, le plus grand titre, c'est la Coupe du Monde 2018. Les 300 000 euros de primes, ils les ont été reversés à l'association Premier de Cordée. D'où notre premier débat boycott de certains sponsors de l'équipe de France. Comprenez-vous Kylian Mbappé ? Et vous êtes 41,6% seulement à dire oui. Avec nous, Vincent Chaudel, cofondateur de l'Observatoire du Sport Business. Bonsoir Vincent Chaudel.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Est-ce que c'est quand même pas un geste fort, le geste de Kylian Mbappé, Vincent ?
Alors c'est un geste fort, oui, évidemment, que seul un joueur très fort ou très incontournable peut se permettre, et en cela, faut le saluer, mais c'est surtout une suite de questions et une fragilisation de la pyramide du sponsoring qui s'ouvre devant nous, parce que on est sur un sport collectif et si désormais chaque joueur décide de porter ou pas un sponsor en fonction d'une position que l'on peut comprendre, eh ben ça va devenir très compliqué.
Alors, a priori, la prime était au départ de 300 000 euros, mais elle a été augmentée à 550 000 euros. C'est ce qu'on vient de me dire dans le casque. J'avais trouvé le chiffre de 300 000 et il aurait aussi tout donné, ce qui est vraiment tout à son honneur. Philippe Bilger.
Alors, je vais questionner Vincent Chaudel en faisant une digression. Lorsqu'on voit les salaires absolument indécents révélés par l'équipe des joueurs du PSG, je comprends bien les objections qu'on peut me faire. Je les connais, mais il n'empêche que ces salaires sont monstrueusement indécents par rapport en plus aux résultats du PSG. À partir de ces prémices, j'allais dire, et Mbappé donne l'impression de cracher dans la soupe. À partir du moment où on s'engage dans un processus argentifère, il faut aller au bout de ce qu'il implique. Et pourtant, je vais me contredire parce que j'approuve absolument la présentation faite par Philippe du rôle de Mbappé en général, de sa générosité par rapport à tant d'autres, et j'approuve ce coup de force qu'il a fait. Alors, il sort du circuit, il est blâmé probablement, mais je crois qu'il a raison d'attirer l'attention sur certaines indécences publicitaires.
Je voudrais, avant de donner la parole à Vincent Chaudel, Philippe Bilger, quand vous avez été troisième de la Coupe du Monde 58 avec Fontaine et Coppa, vous aviez touché combien ?
Et votre bêtise mérite combien ?
Vincent Chaudel.
Pardon, mon mais cher Philippe.
C'est bien de rappeler la Coupe du Monde 58.
C'est des salaires en or à la bêtise de Philippe Bilger. Hein. Franchement, Mbappé, c'est un smicard à côté. Oui. Hein. Si on devait la quantifier.
Vincent Chaudel, tiens, qui sait tout sur le sport, Vincent Chaudel. En 58, une prime pour une troisième place, c'était combien ? Vous le savez, comme je sais que vous avez une mémoire encyclopédique.
Je sais qu'en 58, c'était une base de joueurs du Stade de Reims et que les joueurs s'étaient cotisés après pour aider Raymond Coppa à soigner son enfant malade. Donc,
c'était
une autre époque. Pour répondre à Philippe Bilger.
Alors, y a beaucoup de choses qui se jouent là. C'est-à-dire que quand on parle de sponsoring et on va décaler le sujet du salaire, je comprends la position de Philippe tout à fait, mais là, on a pour un joueur, il y a ses sponsors personnels. C'est une chose et charge à lui de trouver des sponsors qui correspondent à son éthique, hein, on peut pas en douter là-dessus, et donc très bien. Il y a les sponsors qui sont liés à son employeur. Il y a un lien de subordination avec le contrat de travail. Et donc, dans le contrat, en général, il est négocié une représentation ou des mises à disposition pour porter les couleurs des partenaires du club. Et puis, il y a la sélection. Et là, c'est un peu particulier parce que la sélection, elle n'emploie pas le joueur. Il n'y a pas un lien de subordination en tant que tel. Il y a une participation, mais et il y a en général une convention qui est signée, mais ce n'est pas un lien de subordination en part entière. Donc là, on ouvre dans ce débat-là un sujet qui avait été traité il y a maintenant une quarantaine d'années, quand il y avait eu le sujet des chaussures, par exemple.
C'était parce que lors du match France-Italie de Mar del Plata, en 2 juin 78, de mémoire.
Exactement. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que... mais oui, Philippe a de la mémoire.
Oui, franchement.
Et en fait, on ne peut pas imaginer que dans une équipe de football... certains joueurs viennent avec un maillot Adidas, d'autres avec un maillot Nike, et puis un troisième avec un maillot Puma. Donc, on comprend bien qu'à un moment donné, dans un sport collectif, il y a des décisions collectives. On avait pu faire une exception, et on a fait une exception à partir de ce match de 78 pour les chaussures, parce qu'on avait estimé que ça, c'était de l'ordre du confort de l'individu, et qu'une chaussure plus qu'une autre pouvait correspondre à au morphotype ou aux caractéristiques du joueur. Le nom sur le maillot, c'est un autre sujet. Et là, si on rentre dans ce débat-là, même si on peut comprendre la position de Kylian Mbappé, ça ouvre tout un sujet parce qu'aujourd'hui, une fédération vend l'image de son équipe nationale pour financer en partie le travail d'une fédération qui va être de cascader au niveau des ligues régionales, des comités départementaux et donc du football amateur.
Françoise Degoy.
Moi, j'applaudis 10 fois Kylian Mbappé et je suis tout à fait sur la ligne de Philippe Bilger, donc je suis du en même temps à fond. C'est-à-dire que je trouve que quelles que soient les qualités et la merveille de ces joueurs, que ce soit Kylian Mbappé, Messi, qui que ce soit, je pense que leurs salaires sont indécents. Ce n'est pas possible de toucher 50 millions d'euros par an net d'impôts ou 40 millions d'euros par an.
Ce n'est pas les sportifs les mieux payés, il faut le dire. Hein.
Mais je sais bien, les golfeurs gagnent beaucoup plus d'argent, même les basketteurs. Bien sûr, je connais toute cette histoire-là, c'est pas pareil. Mais je veux dire par là qu'il a raison et je trouve que globalement, cette génération-là a des combats. C'est assez intéressant de voir par rapport à leurs aînés. J'ai le souvenir de Grisou il y a quelques mois qui refuse et qui se fâche avec un sponsor parce que la Chine.
Oui,
parce
un sponsor chinois, c'était Huawei, je crois.
Huawei. Donc, parce que la Chine, parce que les Ouïghours, donc ça, c'est assez rare dans le monde du sport, cette conscientisation. Je trouve intéressant, moi, sur le plan intellectuel, voire politique, qu'il y ait cette forme de conscience. Moi, Kylian Mbappé, m'horripile parfois par son comportement, parce que je trouve qu'il a un peu le melon, partira pas, mais ouais. Je trouve que sur ce plan-là, il est toujours formidable, et en plus il est engagé. Je me souviens quand notre ami George Floyd a été tué par un policier, il s'est exprimé, Kylian Mbappé. Il s'est exprimé. Ils se sont exprimés, les joueurs de l'équipe de France, malgré toutes les récriminations. Ils ont mis un genou à terre avant leur match, même si les télévisions ne l'ont pas montré, se sont bien gardés de le montrer. Ils l'ont fait. Donc, je veux dire qu'il y a aussi dans cette génération-là une conscientisation que je trouve assez passionnante à observer.
Vincent Chaudel.
Oui, mais je comprends le point et je comprends l'idée qu'il y a derrière. Je dis juste qu'on ne mesure pas ou on ne mesure pas encore les conséquences ou l'incidence que ça peut avoir.
Si grave que ça, Vincent.
Juste le point. Quand Griezmann dénonce le contrat Huawei, c'est son contrat personnel. Donc il a toute la légitimité de le faire. Il n'y a pas de problème là-dessus. Quand c'est un contrat négocié collectivement au niveau de la fédération, Là, on dit que c'est Uber Eats ou McDo ou Coca-Cola. On peut comprendre, mais encore à la limite, on peut discuter. Et demain, on pourrait dire pour Volkswagen. Demain, on pourrait dire pour Intermarché. Et ça veut dire qu'en fait, il y aura toujours la monétisation des joueurs stars. Ça, eux, ils arriveront toujours à se monétiser, mais on n'arrivera plus à tirer cette valeur de monétisation de ces joueurs pour l'intérêt général qui va être le football amateur.
Oui, mais alors,
et donc, c'est là le sujet du, non, mais moi, je pense du point que, d'équilibre non, à trouver.
Mais Vincent, je suis d'accord. Mais quand que Kylian Mbappé pose la question sur où va l'argent, je pense qu'il a forcément des éléments qui lui font dire que l'argent n'est peut-être pas si bien redistribué que ça non plus. C'est-à-dire, en gros, on veut bien être des hommes objets, des hommes sandwich et rapporter des millions d'euros à notre fédération, mais il faut que notre fédération, elle soit réglo là-dessus. Peut-être que la fédération n'est pas si réglo que ça. Franchement, j'ai du mal à pleurer sur le sort de la fédération française de football.
Non, mais c'est moi, je veux pas me faire l'avocat de la fédération. Moi, je parle du marketing du sport d'une façon générale, parce que c'est ça que ça peut remettre en cause. Derrière ce sujet du sponsor, soit en fait ton sujet c'est de savoir où va l'argent, et ça c'est un vrai débat, et où c'est de dire moi je suis pas d'accord avec la nature de ce sponsor, parce qu'à ce moment-là on pourrait très bien dire je suis pas d'accord avec la nature du diffuseur, et puis après je suis pas d'accord avec la nature de l'équipementier. Et après, je suis pas d'accord.
Au fond, c'est pas mal de remettre en question. Ça devient très compliqué. C'est pas mal quand
Olivier d'Artigol n'a pas encore parlé.
Juste quand vous voyez un type comme Antoine Dupont qui est juste extraordinaire, combien il gagne, tiens, par mois, Antoine Dupont? Il gagne 35 000 euros par mois. 000, ouais. Donc écoutez, en plus, moi je trouve, je sais bien que vous n'êtes pas l'avocat de la Fédé, mais je trouve que là, c'est boursouflé.
Le rugby, ça gagne beaucoup moins que le foot. Olivier d'Artigol.
Bah oui, c'est pas normal.
Ça dépend ce que ça rapporte.
Oui, bon, d'abord, je pense qu'il va falloir une remise à plat de tout ce sport business fric qui va vers des sommets d'indécence par rapport à la situation faite au sport amateur dans les quartiers populaires. On parle souvent de l'état de notre société. Je peux vous assurer que des bénévoles associatifs dans le milieu du sport, de l'éducation populaire, sont des véritables héros du quotidien. Pour continuer à faire ce qu'ils font avec des locaux parfois dégueulasses, des sanitaires dégueulasses, avec la difficulté pour encadrer ces jeunes. Bon, j'ai des exemples très précis en tête. Moi, je trouve vraiment, je partage beaucoup de choses qui ont pu être dites. Juste une chose, si des gamins aujourd'hui ou dans les jours qui viennent se disent « Tiens, Kylian Mbappé, il a dit ça », et s'ils regardent un peu, s'ils s'interrogent un peu sur cette boisson, le coca, s'ils disent « Tiens, Uber, on parle d'ubérisation du travail, qu'est-ce que ça veut dire ?»« Tiens, il a aussi parlé des clubs amateurs. » Il y a une vertu pédagogique, ou tout au moins de sensibilisation à ce que fait Kylian Mbappé aujourd'hui. Et on ne peut pas dire quand même qu'on peut s'appuyer sur une actualité aussi positive tous les quatre jours concernant le sport professionnel, où normalement l'actualité, c'est une actualité qui dégouline et dégueule de chiffres, de mercato, de sujets qui, ma foi, nous font dire que c'est la planète fric. Donc moi, je trouve que c'est une actualité très positive.
Vincent Chaudel et Philippe Bilger, qui veut réagir.
Mais en fait, le sujet, c'est que le monde du football, c'est pas un monde national. C'est international, c'est-à-dire que demain, par exemple, Kylian Mbappé signe dans un club en Espagne, par exemple. Quand les sponsors qui vont le payer à un prix qui sera au moins comparable à ce qu'il touche aujourd'hui, c'est-à-dire une somme que vous considérez indécente, que je peux comprendre, hein, ce que je peux comprendre tout à fait. Et personnellement, un mois de son salaire m'irait très bien. je doute qu'il remette en cause tous les sponsors de son nouvel employeur. Et donc, le sujet quand même, c'est que j'entends tout ce que vous dites. Si on pense que depuis la France, on peut tout changer, moi, j'ai un doute par rapport à ça. En revanche, la conséquence de ça, c'est que si les partenaires de l'équipe de France ne peuvent plus avoir les principaux ambassadeur de cette équipe de France, la valeur de l'équipe de France marketing va être impactée. Et c'est quand même, d'une manière ou d'une autre, de l'argent en moins qui redescendra vers le football de base.
Philippe Bilger qui veut réagir.
Vincent, j'ai bien aimé la distinction que vous faites entre le singulier et le collectif. C'est-à-dire que le singulier ne relève que de sa propre décision. Le collectif, on est d'une certaine manière ligoté. Mais une question, Vincent. Imaginez que vous compreniez le souci éthique de Mbappé. Comment aurait-il dû faire ? Quelle action aurait-il dû opérer, à votre avis, pour rester en quelque sorte dans, entre guillemets, dans les clous tout de même ? Qu'est-ce qu'il aurait pu se permettre ?
Là, ce qu'il a fait, quel débat, c'est sûr. Mais moi, ce que je crains, c'est que ça, que c'est des conséquences qui aillent au-delà de ce qu'il veut réellement. C'est ça le sujet. Derrière, normalement, c'est dans les discussions qu'il peut avoir avec ses dirigeants. Et a priori, il a eu des discussions avec le président de la fédération. Où là,
qui lui a carrément téléphoné pour aller faire les photos, hein, a priori.
Tout à fait, mais en l'occurrence, il y a des partenariats qui ne sont pas nouveaux. C'est-à-dire que si je prends, bon, on n'a pas le droit de citer des marques, on a le droit de citer des marques.
Allez-y, parlons vrai.
Non, mais quand il y a des partenaires comme KFC, et puisqu'il est engagé sur des aspects nutritifs pour les enfants de façon positive. KFC, c'est pas un phénomène nouveau, c'est un partenaire de la fédération. Donc en fait, ce qui lui pose problème aujourd'hui là, pouvait lui poser problème il y a quelques mois déjà. Et donc ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est que derrière ce qui s'est passé hier, est-ce qu'il y avait déjà des discussions en cours? Et pour moi, le sujet serait plutôt de dire à la renégociation des contrats ou à l'issue de ce contrat-là, je ne souhaite pas moi porter ce genre de sujet. D'accord. Mais c'est un autre débat encore.
Oui, Olivier Dartigolle, brièvement et pour une réponse brève.
Non, mais vous avez bien votre conclusion, je la partage, c'est un autre débat.
Alors, justement, est-ce qu'il risque des sanctions, Kylian Mbappé ? Parce que quand on devient international, on signe un contrat avec la fédération en disant qu'on doit accepter les shootings, les sponsors, etc., etc. Mais excusez-moi, on n'imagine pas l'équipe de France se passer de Kylian Mbappé. Allez, ou alors une sanction suspendue pour un match amical, quoi.
C'est ça.
On n'imagine pas de faire la Coupe du Monde, en clair, c'est ça. Sauf blessure, évidemment, ce qu'on ne souhaite pas.
C'est pour ça que c'est un des rares joueurs qui peut se permettre de faire ce genre de choses. La seule chose, c'est que derrière, est-ce qu'il va mesurer ou est-ce que l'on va pouvoir contrôler les conséquences de son acte ? C'est ça le point.
C'est ça le point.
Moi, je pense qu'il est suffisamment, pardon Vincent, vous connaissez mille fois mieux Kylian Mbappé que moi, mais je pense qu'il est très réfléchi, il est très froid. D'ailleurs, c'est quelque chose qui résonne à froid. C'est pas quelqu'un qui est émotionnel, Kylian Mbappé. Donc je pense que s'il l'a fait...
Un grand buteur n'est jamais un émotif.
Ouais, je sais pas. En tout cas, s'il l'a fait vraiment, c'est profondément parce qu'il est...
C'est pour ça
comment
que je l'ai jamais été.
Je pense qu'il s'est parfaitement réfléchi, qu'il a déjà mesuré l'ensemble des conséquences de son acte, je pense. Son bon acte.
Les conséquences de son acte à son niveau, oui. Mais pour l'ensemble de l'écosystème, je ne suis pas tout à fait sûr.
Vous avez entendu Philippe Bilger qui a dit qu'il n'a pas été un grand buteur parce qu'il était trop émotif. On a reçu un texto là, à l'instant de Pelé qui écoute depuis le Brésil qui dit « À la Coupe du Monde 58, il y a un nom qui m'a marqué sur le terrain, c'était Philippe Bilger ». Vous voyez, ça doit vous faire plaisir Philippe, non ?
Vous recommencez mon cher Philippe.
T'avais qu'à pas lui demander de l'hyperbole.
Oui, non, vous me demandez de l'hyperbole, j'en fais.
Tu comprends le problème, c'est que tu l'enfermes dans sa folie générale. Il est à peu près normal, on a commencé l'émission
tout à l'heure,
normalement.
Honteusement, j'ai dit qu'il était bête, je vais dire qu'il est très intelligent.
Piteusement, oui, piteusement. T'as mis deux balles dans la machine, maintenant on y est jusqu'à 19h.
Merci beaucoup Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business, verdict sur Twitter. Boycott de certains sponsors de l'équipe de France,
Vincent.
Comprenez-vous Kylian Mbappé, vous êtes 41,4% seulement à dire oui. Ça vous dira une chronique présidentielle de Philippe Rossi. C'est tout de suite les vraies voix.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degout, Olivier Dartigolle, c'est l'heure de la chronique présidentielle de Philippe Rossi.
Sud Radio Parlons Vrai, présidentielle 2022.
Et mon cher Philippe Rossi, le premier sujet va faire plaisir à Françoise Degout, puisque François Hollande, dont elle est proche, a apporté enfin son soutien à Anne Hidalgo.
Eh oui, c'était lors d'un meeting à Limoges. L'ancien chef de l'État, qui devait s'exprimer 30 minutes, a finalement pas gardé la parole durant une heure et a donc apporté officiellement son soutien à la maire de Paris. François Hollande, tiens, qui en a profité pour glisser un petit tacle à Nicolas Sarkozy. Écoutez.
Elle a du courage, elle a de la ténacité, elle a donc mon soutien. Qu'aurait-on dit si je m'étais tue ou si je m'étais caché ? Je laisse ça à d'autres, ou plutôt à un autre qui n'a jamais été un exemple pour moi.
Et cet autre, c'est bien évidemment Nicolas Sarkozy qui se tait, qui à moins de 20 jours du premier tour n'a toujours pas soutenu Valérie Pécresse. Hier, à Limoges, François Hollande a donc apporté son soutien à Anne Hidalgo qui peine toujours à décoller dans les sondages. François Hollande qui aussi a appelé à poursuivre le grand mouvement qui s'appelle le socialisme. Le socialisme qui, selon l'ancien chef de l'État, je le cite, n'a pas fini son chemin. Oui. Ça peut faire rire. Hidalgo va-t-elle bénéficier d'un effet François Hollande? Tiens, fait-il encore de l'effet François Hollande Françoise de Goy, oui.
Philippe,
alors, oui. C'est pas ironique du tout.
En une seconde, président Hollande, je t'adore, ok. Mais faire un meeting comme ça, en posant tes propres jalons pour la suite, parce que ce meeting ne servait qu'à ça.
Ouais.
La phrase qui consiste à dire « il faudra poser des actes de reconstruction alors que ta candidate rame à 2% dans les sondages », ça veut dire que tu anticipes déjà que la reconstruction se fera autour de toi. J'ai juste un message à te dire, cher président, je t'adore vraiment, mais c'est pas possible qu'on recommence avec toi.
Bon. Voilà. Très vite, Philippe Bilger.
Ah ben moi, en fait, c'est le paradoxe de cette belle émission, je vais le défendre. C'est-à-dire qu'au moins, comme Bernard Cazeneuve, on peut pas dire qu'il vole au secours de la victoire, au moins. C'est déjà quelque chose d'important.
Ouais, c'est vrai.
Et deuxièmement, j'approuve totalement la pique qu'il a faite à l'égard
de Nicolas Sarkozy,
qui n'a pas été comprise, parce qu'on a beau tourner ça dans tous les sens, si Nicolas Sarkozy ne se prononce pas en faveur de Valérie Pécresse, et je crains le pire, c'est clair maintenant, eh bien ça n'est pas très beau, tout de même, c'est le moins qu'on puisse dire.
Olivier.
Cher Philippe, si on devait faire la liste de tous les soutiens de différents candidats qui, sous couvert de ce soutien, prépare en fait le coup d'après, le temps de l'émission ne suffirait pas.
Il faudrait finir à minuit.
Je ne suis pas d'accord sur le fait que... C'est comme Guillaume Larrivé, mais franchement, je le prends aussi mal que Guillaume Larrivé qui commence déjà la recomposition avec Macron. Ah. Mais franchement, Philippe Bilger, vous
c'était notre grand débat d'hier. C'était notre grand débat d'hier dans les vraies voix.
Vous réécouterez
le podcast. Hier, l'hebdomadaire Valeurs...
C'est ce que je veux. Je préfère écouter le podcast avec Louise Warmarie et Daniel Herrero.
Très sympa d'ailleurs. Hier, l'hebdomadaire Valeurs Actuelles organisait un grand débat des valeurs.
Oui, avec sur scène Marlène Schiappa, Marion Maréchal, Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Éric Ciotti, Jordan Bardella, le grand débat de valeurs actuelles, avec un Éric Zemmour qui a été applaudi, ovationné, et à l'inverse, une Valérie Pécresse qui a été sifflée, huée, à tel point qu'elle a dû s'interrompre pour demander à la salle de se taire.
Je veux bien...
S'il vous plaît.
Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais vous avez le droit aussi de m'écouter. Moi, je vous respecte, donc je viens vous parler.
Voilà. Bon, ça n'a pas empêché certains spectateurs de continuer à siffler la candidate LR. Et puis, il y a eu cette scène un peu surréaliste, on peut le dire, gênante même. Éric Ciotti, qui était présent sur scène et qui a vu une information confidentielle le concernant être dévoilée sur la scène du Palais des Sports par l'animateur du débat de valeurs actuelles. Écoutez, on commente juste après.
Éric Ciotti, merci beaucoup d'être avec nous.
Merci à vous.
Surtout après une déjà longue journée, un JT de TF1 tout à l'heure, et je crois même un déjeuner un peu particulier ce midi, si vous voulez nous dire avec qui vous avez eu l'honneur de déjeuner ce midi.
Non, c'était privé.
C'était privé, bon. Monsieur Ciotti a déjeuné avec François Fillon ce midi.
Et voilà, c'était privé. Celui qui n'a pas su tenir sa langue, qui a révélé le déjeuner de Ciotti, c'est Tugdual Denis, le directeur adjoint de la rédaction de Valeurs Actuelles. Oui, Olivier, vous voulez dire un petit mot?
Ouais, là, j'ai vu des extraits.
Vous étiez au déjeuner, non?
Marlène Schiappa, non. Je vais vous dire sur le déjeuner. Marlène Schiappa était présente. Quand elle parle de l'accueil d'enfants malades ukrainiens, la salle se met à rire. J'ai trouvé cette ambiance presque détestable.
C'était spécial, c'est vrai.
Et en termes de Ciotti, dont je ne suis pas le premier des soutiens, est invité. Il accepte l'invitation et il se fait bâcher de cette manière-là par le journaliste qui l'invite. Je trouve qu'il y a là un manque d'élégance. Que ça ne devrait pas.
C'est un climat
voilà, qui se délite totalement.
Oui,
être un journaliste, ça n'est pas...
C'était plus maladroit qu'autre chose. Non, il a pas entendu, j'imagine.
On fait gaffe à ce que dit la personne.
En plus, il faut...
Non, il y a quelque chose de pas...
Je pense que Valérie Pécresse, c'est bien. Elle a eu le courage d'aller affronter...
Allez, on termine en faisant un petit point.
Franchement, elle a été courageuse, Philippe.
On termine en faisant un petit point. Arcom, temps de parole, temps d'antenne. C'est parti. L'ARCOM, alors c'est l'ex-CSA, l'ARCOM, qui demande aux médias, vous le savez, de respecter l'égalité des temps de parole entre tous les candidats. Et à chaque élection, à quelques jours du scrutin, eh bien, les médias doivent rattraper le retard, équilibrer, ajuster le retard qu'ils auraient eu sur certains candidats. Bref, Sud Radio n'y échappe pas. Ainsi, nous allons rattraper notre retard sur Jean Lassalle, Nicolas Dupont-Aignan et Philippe Poutou. Tiens, commençons par Jean Lassalle, qui a été interrogé il y a quelques jours par Patrick Roger sur son souhait de poursuivre ou non sa campagne. Il avait menacé de ne plus se présenter. Jean Lassalle, écoutez.
Je continue ma campagne pour l'instant. Et je suis en train de réfléchir. Il y a des moments où l'on doit s'interroger à la manière dont on peut être le plus utile à son pays.
Quant à Philippe Potou, lui, de son côté, il a poussé un vrai coup de gueule contre Françoise de Goix. Non, contre la gauche. Mais puisque vous êtes la seule à représenter la gauche.
Et, et d'Artigol, alors.
Et d'Artigol, c'est Olivier d'Artigol. Ouais. Alors écoutez le coup de gueule de Philippe Potou.
La gauche est complètement discréditée parce que la gauche, à chaque fois qu'elle a été au pouvoir, elle a trahi. Elle a renié ses idées et aujourd'hui, l'état de la gauche, eh ben, c'est celui-là. C'est celui d'une gauche qui est complètement, qui a plus la confiance de la population. Et donc, du coup, ben, c'est ces bilans-là qu'il faudrait qu'on arrive à faire. Parce que
on n'a plus le temps, vous l'appellerez pour lui répondre, Françoise de
Goix. J'adore Poutou, donc je lui fais des Poutous à Poutou.
Très bien,
j'adore.
Vous savez que les sondages prédisent une abstention record plus qu'en 2002, on verra hein, dans quelques c'est jours. Pas. Et Nicolas Dupont-Aignan, lui, a appelé les Français à se rendre aux urnes.
Je dis aux électeurs, au lieu d'être dégoûtés, au lieu de manifester, au lieu d'être chez vous à râler, allez voter. Si les 47 millions d'électeurs vont voter, pas en fonction des sondages, mais en lisant les projets, eh bien tout changera. Donc j'appelle les Français à réagir.
Et voilà, réagissez, là, très important raison. D'aller voter, bien
pour
sûr qu'il
fois.
A raison.
Oui. Eh bien justement, merci beaucoup Philippe Rossi, ce sera notre grand débat présidentiel 2022. Craignez-vous une abstention record? Vous êtes 51,2% à dire non. Vous voulez réagir? Le 0826-300-300 et les réseaux sociaux.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Les vraies voix avec Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, auteur du livre « Libre propos d'un inclassable » publié à Nouvelle Librairie, Françoise Degois.
Non, c'est tout là sur Bilger ?
Oui, parce que comme on a deux tours de table de l'actualité, on ne fait plus d'hyperbole,
oui.
Là.
D'accord.
Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio et
FCI. J'aurais bien aimé, moi.
Auteur de « L'homme qui n'avait pas d'amis » publié chez Plon et Olivier d'Artigol, chroniqueur politique. Un livre en vue ?
Peut-être.
Ah, ça c'est une réponse de Gascon.
Oui, mais pas du tout dans la politique.
Ah bon, sur quoi ?
La suite d'un bouquin que j'ai sorti, roman policier.
Oui. Oh bah écoutez, très bien.
Éditions La Déviation, vous voyez le titre déjà.
Et donc romancier. À 18h30, notre grand débat présidentiel 2022. Craignez-vous une abstention record? C'est très serré puisque vous êtes 49,3%, qui a 49,3 à dire oui, et donc 50,7% à dire non. Prêt pour les tours de table de l'actualité? C'est parti.
Les vraies voix Sud Radio.
Et Olivier d'Artigol, on devait vous prendre tout à l'heure, mais comme McKinsey a pris du temps, on vous a pas pris. Vous voulez parler de l'arrestation des présumés coupables de l'assassinat de l'ex-rugbyman du BO et de l'USAP, notamment Martine Arambeau. Ouais,
je veux d'abord parler de ce qui se passera samedi à 14h. C'est l'église Sainte-Eugénie à Biarritz. Les obsèques donc de Martine Arambeau. Les amoureux de l'Ovalie le connaissent bien.
Bien sûr.
C'est deux Brennus pour. Pour Biarritz,
2005
pour le
et
BO.
2006, je crois, ou 2004-2005.
Oui, mais c'est aussi Perpignan, c'est Dax. Puis c'est un époux, c'était un papa. Et comment vous dire ça de manière la plus sobre possible? On découvre donc le pedigree de ceux qui l'ont abattu, des anciens du GUD, cette extrême droite violente, armée, ces suspects dont l'un qu'on retrouve en Hongrie, quasiment en Ukraine, qui n'auraient pas dû se trouver à Paris, qui sont sous le coup d'une décision judiciaire pour s'être déjà signalé pour des violences.
Des tortures même.
Oui. Donc il y a déjà un dysfonctionnement. Et je trouve qu'on est trop dans l'euphémisation parfois de l'ultra-droite, comme on dit, ou la droite de la droite. Il y a aujourd'hui, dans une partie de l'extrême droite française, des gens dangereux, des gens armés. Quand la DGSE dit c'est un vrai risque qu'on suit, DGSI ou intérieur bien sûr, c'est un risque véritablement, je pense qu'il faut prendre ce risque à hauteur du danger.
Philippe Bilger, c'est hallucinant, il devait pas sortir du département du Var, parce que c'était suite à des tortures, mais alors, j'ai lu complètement folle, on paye 25 000 euros de caution. Oui, filmé. On paye 25 000 euros de caution. On est libre après avoir torturé quelqu'un et il n'aurait pas dû quitter le Var. Il était à Paris. C'est pas franchement dans le même coin.
Oui, à la fois je rejoins Olivier d'Artigol, mais puis je opposais quelque chose que je remarque souvent, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des violences grave et celle-ci malheureusement mortelle. En général, la plupart des médias ont tendance à dire presque par principe, c'est l'extrême droite. C'est l'ultra droite.
C'est l'extrême droite, on le dit.
Et là, oui, mais là, en l'occurrence, Olivier, c'est vrai. Donc, évidemment, je ne peux que rejoindre votre point de vue.
Françoise de Goix.
Encore une fois, je vais le redire, comme pour McKinsey, je suis sidéré alors, de la violence de la chose.
Absolument.
Je suis sidéré de la couverture à minima de cette affaire.
C'est vrai, je trouve que ça fait pas beaucoup. On en parle très peu par rapport...
On peut faire un hashtag. Nous serions dans une campagne normale.
On en a
normale,
eu pas mal, tout de même.
Mais nous, en radio, mais peut-être en presse écrite. Mais la télé ne consacre absolument rien comme reportage à cette affaire. Donc, je le redis, nous serions dans une campagne normale. Cette affaire serait derrière McKinsey en ouverture de tous les journaux. Enfin, on sait quand même qui est ce rugbyman. C'est un international. Le type, il est en boîte de nuit. Il est mort. Il sort, il est mort. Ils imaginaient, on aurait eu Darmanin sur les lieux, etc. Alors, rien, silence radio, franchement, honnêtement, encore une fois, il faudra qu'on fasse, j'ai horreur de cette expression, un retour d'expérience sur ce qui s'est passé médiatiquement dans cette campagne. Vraiment, quand on analysera, c'est désastreux.
Alors Françoise Degout, votre tour de table, vous, c'est sur un coup de gueule, sur cette gauche qui met plus d'énergie à flinguer Mélenchon qu'à taper sur Macron et Le Pen.
Oui, alors je ne mets pas tout le monde dans la gauche parce que je vois que Fabien Roussel, et ce n'est pas pour faire plaisir à mon camarade Olivier Dartigolle de le dire, il a changé de braquet il y a encore 3 semaines, 1 mois. Je pense que des conseillers intelligents, suivez mon regard, ont dû lui souffler à l'oreille qu'il ne fallait pas faire ça, mais je suis sidéré encore. Anne Hidalgo, hier, a passé la moitié de son meeting à parler de Mélenchon dans des termes absolument épouvantants. Bon, je veux bien que ce soit la guerre entre le PS et Mélenchon, mais là, à désinguer le vote utile. Je vois bien que les Verts disent le seul vote utile, c'est Jadot, parce que le vote utile n'existe pas. Écoutez, moi, si tous ces leaders mettaient autant de force à dénoncer Macron, à taper sur Le Pen, qu'ils en mettent à désinguer Mélenchon parce qu'ils montent inexorablement et ils ont peur de se faire dépecer, eh bien, nous n'en serions pas là. Je veux dire par là qu'il faut être honnête, simple et précis. En faisant ça, la gauche ouvre la porte du second tour à une extrême droite à 46 ou 47%. Moi, je pose la question, elle est très simple. Un enfant de 5 ans peut répondre. Qu'est-ce qu'il vaut mieux ? Une gauche qui ouvre la porte à une extrême droite à 48% dans un second tour de présidentiel ? Quel marron du fou pensez-vous tiré d'une situation pareille, avec une gauche éliminée 3e 21 avril, ou bien une gauche au second tour, même si elle ne fait que 31%, parce que le grand argument, c'est de toute façon, il ne gagnera pas. Oui, mais personne ne gagnera, pas plus Anne Hidalgo que Yannick Jadot. Personne ne gagnera au second tour à gauche. Ne gagnerait, a priori. Eh bien, il vaut mieux une gauche à 31%, avec un climat de combat politique qui changerait complètement. Enfin, je veux dire, la réponse est contenue dans la question.
Olivier Dartigolle et Philippe Bilger, pas trop long.
Non, mais je pense depuis le début que le problème de la gauche, c'est le total des voix et ce score trop faible. Donc si des candidats, dont Jean-Luc Mélenchon, sont en dynamique, c'est quelque chose de très positif. Bien évidemment que le paysage politique serait totalement différent si l'extrême droite peut être chassée de ce second tour. Et donc, j'ai envie de dire que si le candidat Roussel fait aussi un beau score, cela s'additionnera. Donc je crois qu'il y a là des réserves de voix à aller chercher dans l'abstention, justement, chez des gens qui ne croient plus en politique, qui sont un peu déboussolés. Moi, j'ai tendance à vouloir additionner tout ce qui vient de la gauche, de ces cultures politiques. De toute manière, il y a un énorme travail derrière d'imaginaire à reconstruire à gauche et de choses si ce n'est inventé, à reconstruire, et aussi un peu à inventer.
Philippe Bilger.
Au risque de continuer à avoir une vision immature de la politique, non, mais sérieusement, je crois que la personnalité insupportable de Jean-Luc Mélenchon explique le défaut d'adhésion de la gauche. En grande partie, je sais qu'on ne l'admettra pas parce que c'est faire rentrer la politique par de petites lucarnes. Et deuxième élément, Olivier, c'est presque une question. J'ai noté que, évidemment, Fabien Roussel voulait faire barrage au second tour à l'extrême droite. Est-ce que ça veut dire qu'il va voter Macron ?
Je ne vais pas m'exprimer pour Fabien Roussel dans ce moment-là, parce qu'il le dira à sa bannière. Et puis tu sais, cher Philippe, que en politique, on n'a pas envie d'évoquer un second tour tant que le premier tour n'est pas joué. C'est une grande règle.
Les vraies voix, 18h15. Dans quelques instants, on sera en compagnie de Jean-Baptiste Moreau, député LaREM de la Creuse. Il va nous raconter comment ça s'est passé cet après-midi. La visioconférence, on va appeler ça comme ça, avec Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Restez bien avec nous en Les Vraies Voix.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degoy et Olivier d'Artigol. Volodymyr Zelensky s'est exprimé aujourd'hui en visioconférence avec le Parlement français, donc Assemblée nationale et Sénat. Nous sommes en compagnie de Jean-Baptiste Moreau, député LaREM de la Creuse. Bonsoir Jean-Baptiste Moreau.
Bonsoir.
Comment s'est passé ce moment ?
C'était un moment extrêmement fort et assez exceptionnel. Hein. Déjà, il n'est pas fréquent qu'un chef d'État étranger s'exprime devant l'Assemblée nationale. Hein. Moi, depuis 5 ans, j'ai qu'un seul souvenir, c'était Justin Trudeau qui était présent à l'Assemblée nationale. Et c'est la première fois qu'un président d'un pays en guerre, en Europe, s'adresse à l'Assemblée nationale. Donc c'était particulièrement émouvant et ça vous prend au trip, oui, évidemment.
Je vous pose une question un peu taquine avant de donner la parole aux vraies voix. Il était dans quelle tenue ? Tenue de ville ou tenue Emmanuel Macron, CPA10 ?
J'ai pas fait spécialement attention à sa tenue. Enfin, je pense que le contenu était plus important que la tenue. Et le fait qu'il nous prenne l'image de Verdun pour décrire la situation de Mariupol nous donnait pas forcément envie de nous attacher à l'aspect qu'il pouvait avoir, mais au fond de ce qu'il disait.
Philippe Bilger.
Monsieur le député, j'ai pu écouter évidemment les mots de bienvenue et de courtoisie du président Ferrand et du président Larcher. J'ai trouvé que le propos de Volodymyr Zelensky a été, par rapport à d'autres qu'il a tenus, extrêmement délicat, fin, habile par certains côtés. Il n'a pas été dans une roideur désagréable, contrairement à des interventions qu'on a pu regretter, semble-t-il, parfois parce qu'il allait trop loin. Est-ce que vous avez le même sentiment que moi ?
Il a effectivement salué l'action du président Macron au niveau en tant que président du Conseil de l'Europe. Donc il a salué effectivement l'action auprès de lui et le fait qu'il soit en contact régulier avec le président de la République. Donc après, il a effectivement fait un certain nombre de demandes, mais de façon effectivement moins abrupte qu'il a pu le faire devant la Knesset ou au Parlement quand il s'est exprimé devant le Bundestag. Donc après, je peux que constater, mais effectivement, il a été moins, on va dire, véhément, mais empreint de gravité. Enfin, on voit bien qu'il est marqué physiquement, on le serait à moins, il est vraiment impressionnant à la fois aussi de sérénité malgré tout par rapport à ce qu'il vit.
Françoise Degoy.
Oui, moi je note vraiment le ton un peu plus doux, un peu plus soft. Il a été comme ça aussi, il faut quand même le dire, avec les Italiens. Mmh. Alors à chaque pays, il donne sa petite cartographie de désastre. Aux Italiens, il a parlé de Gênes bombardées, bien sûr. Aux Français, il a parlé de Verdun. Bien sûr qu'il a été dur avec le Parlement, avec le Bundestag. Je pense aussi que c'est peut-être lié au fait que nous sommes président de l'Europe, mais c'est aussi lié au fait que probablement que ce n'est plus tout à fait le temps de cela, aussi diplomatiquement. Je pense, quel que soit là, j'entends bien les critiques sur Zelensky, quel que soit ce qu'il a été, ce n'est pas le problème. Aujourd'hui, il est à l'évidence un homme qui se révèle, un courage. Je trouve qu'en plus, il joue très bien toutes les cordes de l'arc, c'est-à-dire qu'il est à la fois, il peut être impérieux, il est très fin, il peut être faire sourire, il joue la corde de l'émotion, donc en ce sens, c'est bien. Par contre, je me permets de dire, j'ai pas vraiment compris Belmondo, sa chute finale en disant il faut que les Ukrainiens aient le temps de dire au revoir comme les Français à Jean-Paul Belmondo. Bon, j'ai bien compris que c'était un trait pour nous dire son affection, mais ça, c'est quelque chose que j'ai pas capté. À part ça, évidemment, 20 sur 20 comme intervention et 20 sur 20 de la réaction des parlements.
Jean-Baptiste Moreau.
Parlement, pardon.
Oui, l'allusion à Belmondo, je pense que il fait aussi l'allusion à son passé d'acteur, lui de son côté, et globalement, il dit que c'est pas normal de dire adieu à des gens parce qu'ils sont tués par un bombardement étranger. C'est plus normal de dire au revoir à des gens quand ils sont en fin de vie et qu'on leur dit au revoir dignement. C'était par rapport à ça, je pense. Enfin, c'est comme ça que je l'ai interprété et compris. Et puis le clin d'œil à son passé d'acteur, c'était particulièrement frappant et émouvant et à la fois ça provoque la colère quand il décrit le bombardement de la maternité de Mariupol et cette femme qui est décédée et qui demandait même à mourir après la mort de son bébé. Enfin, je veux dire, vous pouvez être tricotripé. Et franchement, tous ceux qui relativisent aujourd'hui encore ce qui se passe là-bas, c'est particulièrement indigne.
Olivier oui. D'Artigol.
Alors, à chaque fois qu'il s'adresse devant les représentations nationales, Zelensky cherche bien évidemment à toucher les opinions publiques de ces pays à travers cette communication. Il y a la bataille militaire, il y a la bataille économique et il y a la bataille de communication.
Qu'il remporte allègrement.
Qu'il remporte haut la main. Quand, bien sûr, il compare Mariupol à Verdun, quand il dit les frappes, la réalité des frappes, bien évidemment que ça parle fort. J'ai trouvé, comme l'ont dit Philippe et Françoise, que le ton avait été peut-être, si ce n'est moins véhément, moins rugueux.
Mais hier aussi,
cela avait été peut-être à la Knesset ou au Bundestag. Bon, il est en train de. Il faut bien aussi se mettre dans ce que doivent être de telles journées pour lui. Il y a bien sûr des questions de sécurité, des questions de. Bon, l'exercice est à chaque fois réussi. Avec une dimension française, on voit bien que Emmanuel Macron veut un peu pousser les feux sur le niveau des tensions sur le prochain sommet européen. Sur le sommet des sanctions, que l'Allemagne se retrouve dans une situation, pour des raisons de la dépendance énergétique, un peu plus dans une position plus complexe que la nôtre. Et donc, peut-être que Zelensky aussi adopte ce ton, parce qu'il sait que le chef de l'État peut avoir, dans le sommet européen qui arrive, du 25-26, il me semble, un rôle important pour le durcissement des sanctions. Oui, enfin, peut-être qu'il y a aussi ça.
Ouais, on va faire réagir Jean-Baptiste Moreau.
Oui, ce soir, il y a aussi Joe Biden qui arrive et il va y avoir une rencontre aussi, un sommet de l'OTAN. Ah ouais. Il y a Justin Trudeau aussi qui vient en Europe et à Bruxelles entre ce soir et demain. Il y a des multiples rencontres. Joe Biden va participer d'ailleurs au sommet européen. Donc effectivement, il y a des sanctions qui vont être durcies, ça c'est une certitude, lesquelles on peut un peu trop tôt pour le dire et on verra ce qui ressort de ce sommet européen. Mais effectivement, il nous a aussi demandé de durcir les sanctions et il faut le faire absolument. Il faut prendre toutes les sanctions qui peuvent pénaliser le régime russe pour le faire revenir à la table des négociations, mais avec une position sérieuse de négociation et pas un alibi de négociation avec une position extrêmement arrogante et totalement décalée par rapport à une réelle désescalade.
Françoise Degoy, rapidement.
Rapidement, une question sur ce qui est en train de se passer entre Yannick Jadot et Total. Je voudrais avoir votre point de vue de parlementaire. Vous avez vu que Yannick Jadot accuse Total, qui reste en Russie, de complicité de crimes de guerre. Et ce soir, évidemment, Total annonce porter plainte contre le candidat vert. Et d'ailleurs, Yannick Jadot tape fort en accusant Total et également Emmanuel Macron dans la foulée, parce que je pense qu'il n'en peut plus de s'entendre dire qu'il est trop complaisant avec Emmanuel Macron, ce qui est vrai depuis le début de la campagne. Donc, comment vous réagissez, vous, en tant que parlementaire? C'est quand même très grave, ou pas, d'accuser un groupe français de complicité de crimes contre l'humanité.
Très court et le mot de la fin pour Philippe Bilger.
C'est absolument pas à la hauteur d'un candidat à la présidence de la République. Je veux dire, Total a annoncé qu'ils allaient arrêter l'importation de gasoil, de gasoil plus spécifiquement, je crois, russe. Et c'est très bien. Il faut le faire. De toute façon, il faut que les groupes industriels mettent tout en place, tout ce qui peut sanctionner effectivement l'État russe. Mais c'est indigne de la part d'un candidat à la présidence de la République de s'en prendre dans ces termes-là à un groupe industriel.
Philippe Bilger en 15 secondes, Jean-Baptiste Moreau en 15 secondes.
Promis. Monsieur le député, j'entends dire ici ou là, malgré le rôle extrêmement actif du président pour régler le problème, la guerre, la faire arrêter en tout cas, que la grande difficulté de son attitude est que il est à la fois un médiateur, mais en même temps, en quelque sorte, le porte-parole des sanctions. Est-ce que vous considérez que c'est un souci, ça, qui donne une sorte d'ambiguïté à son rôle, ou pas
comme,
du tout?
Comme Philippe Bilger a pris 45 secondes pour 15, avec 15 secondes, il aura fait 30 secondes de plus.
C'est effectivement très, très compliqué comme rôle, mais de toute façon, ça ne peut en être autrement, puisque Vladimir Poutine ne comprend que le rapport de force. Donc de toute façon, si on n'a pas à la fois les sanctions et la discussion, rien n'avancera de son côté et il ne cédera sur rien. Donc il faut les sanctions et je pense que le président de la République joue pleinement son rôle, mais il n'est pas le seul. Je pense que le Premier ministre israélien aussi a son rôle à jouer.
Merci. Merci beaucoup Jean-Baptiste Moreau, député LaREM de la Creuse. Dans quelques instants, notre grand débat présidentiel 2022. Craignez-vous une abstention record? C'est très partagé, vous êtes 50,3% à dire oui. On va en débattre avec Aurélie Gros, présidente de la France Vraiment, auteur du livre « Pour un ministère des citoyens ».
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Le résultat est historique.
2 électeurs sur 3 ne sont pas allés voter.
Abstention record.
Personne ne peut se réjouir de l'abstention record qui a été enregistrée.
C'est tout simplement du jamais vu sous la 5ème République.
Ça veut dire que 31 millions d'électeurs ne sont pas allés voter.
Nos électeurs ne se sont pas déplacés.
Où êtes-vous? Où êtes-vous ce soir?
Si vous ne votez pas pour vos idées, votre voix ne porte plus.
La victoire est possible si vous vous bougez.
Et oui, elle est prévue à 30% cette année, alors que la présidentielle est l'élection clé de la 5ème République. Elle risque d'être le premier parti de France. Vous l'avez reconnu, c'est l'abstention. C'est encore le Rolling qui le confirme depuis hier. Elle est au plus haut depuis le début du Rolling IFOP Fiduciel pour Sud Radio le 10 janvier dernier. Elle serait de 30%. Alors si on compte l'abstention et le vote protestataire, si on fait le cumul des deux, c'est ultra majoritaire en France. Comment résoudre ce problème alors qu'il y a des tonnes de mouvements sociaux si les gens ne vont pas aux urnes? Peut-être les Français sont-ils désabusés et peut-être qu'ils se disent que voter ne sert plus à grand-chose. D'où notre grand débat présidentiel 2022. Craignez-vous une abstention record et vous êtes 50,3% à dire oui. Avec nous Aurélie Gros, présidente de la France Vraiment, auteur du livre « Pour un ministère des citoyens ». Publié aux éditions de l'Aube, préfacé par quelqu'un qu'on connaît bien sur Sud Radio et qu'on salue, notre ami Éric Revel. C'est aussi co-préfacé avec Éric Maurice. Bonsoir, bonsoir Aurélie Gros.
Bonsoir.
S'abstenir et se plaindre, n'est-ce pas un peu schizophrène?
Ah, c'est toute la question.
Excellent sujet de philo.
Ah bah exactement, merci. Vous avez 4 heures. Merci pour l'invitation. Non, j'ai 20 minutes. Je crois qu'aujourd'hui, y a une perte de confiance, c'est évident. On le voit dans toutes les élections municipales, régionales, départementales, européennes, j'en parle même pas. C'est la bérésina totale. Je crois qu'aujourd'hui, il y a peut-être une demande aussi, c'est d'être plus entendu et beaucoup plus considéré. Les citoyens, effectivement, à quoi ça sert encore d'aller voter? Si on écoute toutes les radios et les télés de France, en fin de compte, le gagnant, on l'a déjà. Pourquoi se déplacer? Pourquoi perdre un dimanche? C'est ça la question, en fin de compte.
Philippe Bilger, qui lui ne s'est jamais abstenu de sa vie, je crois.
Non, en effet. Mais est-ce que ministère des citoyens, est-ce que ça n'est pas un peu réducteur? Est-ce qu'au fond, vous n'auriez pas dû écrire pour un pouvoir dévolu aux citoyens? Premier point. Deuxième point, je crains l'abstention, mais je ne la comprendrai pas. Parce que notamment, mais vous allez sans doute me contredire, on entend beaucoup dire que cette campagne n'aurait pas une haute tonalité intellectuelle. Alors... pour ma part, je considère qu'une campagne peut avoir de l'intérêt, de l'intensité, susciter la curiosité, même si elle ne brasse pas des concepts himalayesques. Et je ne comprendrais pas alors une abstention, même s'il y a des causes multiples qu'on connaît tous. Est-ce que vous croyez que cette campagne, par exemple, peut... diminuer l'abstention, comme sans atteindre, par exemple, le taux, le dernier taux remarquable, c'était 2007 avec Nicolas Sarkozy.
Oui, plus de 80% de votants. Le pire taux, c'est 2002, 71,6. Vous avez entendu le mot himalayesque de Philippe Bilger. Vous comprenez pourquoi ces propos sont toujours des montagnes d'intelligence. Nous vous écoutons, Aurélie Gros.
Alors déjà, pour un ministère des citoyens, c'est pas réducteur. En fin de compte, c'est une méthode. Nous sommes un mouvement citoyen qui est constitué en antenne départementale, qui existe depuis 5 ans, qui compte 30 000 sympathisants. D'accord. Et qui a pour but de mener, en tout cas, des échanges, des discussions avec des citoyens sur des grands sujets qui les concernent. Ça peut être le handicap, ça peut être l'éducation, le consentement à l'impôt. Donc il y a beaucoup de sujets et la démocratie participative. L'intérêt, c'est aussi d'aller après voir les décideurs et d'aller leur expliquer qu'il y a des propositions de la co-construction de l'intelligence citoyenne qui existe et qui serait temps aujourd'hui pour redonner confiance aux citoyens de devenir un peu plus à des réalités de terrain. Et sur cette campagne-là, je suis désolée, mais on n'a pas vraiment parler des sujets qui concernent les citoyens. C'est-à-dire qu'on a beaucoup stigmatisé certains sujets. On a des candidats qui ont fait, en fin de compte, du populisme négatif, parce que je suis contre le fait de toujours expliquer que le populisme le mette à toutes les sauces de la négativité. Je trouve ça dommage. Je pense qu'il existe du populisme, c'est le peuple. Donc il ne faut pas non plus dénigrer le populisme. Mais ce populisme négatif qui a été proposé par un certain nombre de candidats n'a pas permis aux autres candidats, en fin de compte, de s'exprimer sur des choses de la vie des Français. Aujourd'hui, c'est ça que les Français attendent, c'est qu'on s'intéresse à eux et qu'on revienne les pieds dans la boue. Et
dans la glaise, comme on dit.
Dans la glaise, et qu'on vienne les voir sur le terrain et qu'on échange avec eux sur ce qui les touche au quotidien.
C'est vrai, Françoise Degoy. C'est vrai, faux ce que vous dites, et c'est même plus faux que vrai, parce que, par exemple, ça n'est pas ma cam, hein, évidemment, bien au contraire, mais Marine Le Pen a justement fait le choix d'une campagne de proximité. D'abord, nécessité fait loi, bien sûr, parce qu'elle n'avait pas le début de l'argent pour faire des grands meetings, maintenant elle l'a. Et donc, elle c'est la première, avec Jean-Luc Mélenchon, à avoir enfourché le cheval de bataille du pouvoir d'achat en disant on peut bien vous prendre la tête toute la journée avec l'immigration. La réalité, c'est que c'est le pouvoir d'achat. Donc là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Il y a des gens qui ont enfourché les bons sujets et qui parlent aux Français. Moi, je crois surtout que on ne sait pas... c'est le dada de dire l'abstention. Je n'en sais rien si cette abstention sera si forte que cela. Je ne suis même pas sûr que ça soit le cas. Et deuxièmement, là où je vous rejoins, c'est bien sûr, il faut faire respirer la démocratie. Il faudrait en finir avec ce quinquennat et avec ces législatives qui sont collés à la présidentielle, qui valident une présidentielle, qui ne permettent absolument pas à la démocratie. Le malheur qu'a été ce quinquennat est un poison mortel. Ça, c'est vraiment les réponses stupides de Jospin à Chirac parce qu'il était vexé sur la vache
folle. Parce que ça devait être avant les législatives et on a inversé le calendrier.
Mais bien sûr, on inverse le calendrier. On a créé nous-mêmes les conditions du malheur démocratique et donc vraiment, une réforme constitutionnelle s'impose. Emmanuel Macron, comme toujours, la promet, j'attends de voir, bien sûr, mais encore une fois, je suis d'accord avec vous, il a absolument pas gagné.
C'était sa promesse initiale.
Oui, celle de Hollande aussi, d'ailleurs.
Oui,
bien dans le micro.
Oui, bien dans le micro, comme je disais tout à l'heure, je vais éviter de m'envoler.
Oui, parce que vous preniez du recul, c'est le cas de le dire.
Il faut toujours prendre du recul. Non, effectivement, il y a certains candidats qui ont accès, mais les citoyens aujourd'hui ont la campagne présidentielle à travers nos écrans de télé. Et les écrans de télé, pendant tout le début de la campagne, ont en fin de compte orienté la campagne et beaucoup parlé sur des sujets qui n'étaient pas le pouvoir d'achat, les faux sujets. Et pour moi, je ne dis pas que les candidats n'ont pas de programme, encore heureux qu'ils ont un programme. Pour moi, il fallait aller plus loin et forcer un peu plus le trait. Je pense que les Français attendent aujourd'hui des réponses sur leur vie. À quoi sert la présidentielle ?
Vrai sujet, Olivier Dartigolle.
D'abord, il faut dire que les niveaux d'abstention ne sont pas le signe d'un peuple dépolitisé, d'un peuple qui ne s'intéresse pas...
On est le peuple le plus politisé au monde.
Oui, on
a une abstention politique.
Aux affaires publiques, c'est-à-dire qu'ils sont passionnément intéressés par la vie de la cité, plus qu'on ne l'imagine, et on le voit d'ailleurs au niveau local.
Tout à fait.
Quand on a des constructions dites citoyennes au niveau local sur de vrais sujets, on voit qu'il y a un potentiel citoyen, une richesse dans ce pays, dans cette société, formidable. Le seul problème, c'est qu'énormément de gens, et à juste titre, jugent aujourd'hui que cette élection est un verrou pour le changement. C'est-à-dire que d'élection en élection, ils ont vu que leurs conditions de vie, pour l'écrasante majorité d'entre eux, classe populaire et maintenant une partie très considérable des classes moyennes, ne s'est pas améliorée. Que la boule au ventre, de quoi sera fait l'avenir, comment je vais m'en sortir, aujourd'hui, est-ce que je fais le plein de mon frigo, le demi-plein de frigo ou d'essence, cette peur du déclassement, cette peur de ne plus pouvoir y arriver fait que beaucoup pensent que l'élection présidentielle ne réglera rien. Et puis aussi, il y a une immense responsabilité dans ce qu'a été le macronisme, qui nous avait dit qu'il allait réenchanter la politique, d'avoir accéléré des choses qui sont engagées depuis longtemps en termes de dépérissement du débat politique, cette fausse frontière entre progressisme et national, populisme, que sais-je. Ce discours macronien qui est de dire nous sommes le camp de progrès, renvoyant dos à dos toutes celles et ceux qui auraient des propositions alternatives à ce qui est proposé, est un poison mortel pour le débat démocratique. Donc il y a tout ça qui est en train de s'agréger. Alors je pense que dans l'une des surprises, ou alors il y aura une abstention massive qui peut produire dans le résultat des choses spectaculaires, ou alors une ruée vers l'urne,
qui peut mais là produire aussi, des choses spectaculaires.
Qui peut traduire aussi des choses spectaculaires.
Aurélie Gros, c'est la ruée vers l'urne, après la ruée vers l'or, c'est ça ?
Je pense surtout que la mission d'information qui a été faite à l'Assemblée nationale, justement, sur l'abstention, qui était plutôt intéressant et qui a proposé 28 propositions et qui n'a pas été mise en place, elle n'a pas été mise en place parce que je pense que le gouvernement avait surtout peur que ce soit vu comme une manip électoraliste, tout simplement. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a il y a un réel besoin. Nous, on a proposé, par exemple, les abstentionnistes, si on reconnaissait le vote blanc, peut-être qu'il y en aurait moins. Vous voyez, on parle du vote électronique. On peut être pour, on peut être contre. On a beaucoup travaillé, on a fait des réunions justement sur toutes les questions de démocratie. Le vote électronique, aujourd'hui, on a échangé par exemple avec Gilles Mantré qui porte le vote électronique. Quand j'entends toujours dire que le vote électronique, il pourrait avoir de la tricherie, on a vu dans certaines communes que même dans le vote aux urnes papier, il peut avoir de la tricherie. Je pense qu'il faut aussi évoluer avec notre temps. Et je pense par ailleurs qu'il y a autre chose d'intéressant, c'est que dans notre République, on doit être une république aussi de la participation et on doit s'appuyer sur ces trois piliers. Hein, il y a le consentement à l'impôt,
ça
logique,
va, c'est toujours
normal.
Assez fort, hein.
Pardon ?
Il est toujours assez fort, le consentement à l'impôt.
Oui, il est toujours assez fort, je suis bien d'accord. Mais après, on pourrait aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire consentement à l'impôt avec le fléchage de l'impôt, en laissant moi, ce que je propose, c'est que les citoyens puissent flécher une part de leur impôt et qu'on leur laisse le droit de flécher et qu'on leur dise, voilà, un pourcentage de votre impôt sera fléché sur une part de politique publique que vous avez.
En Italie, c'est un centième. Oui, bien
donc
sûr,
ça, c'est des choses...
Vous pouvez le donner à qui vous voulez.
La loi, évidemment, sinon on ne peut pas vivre. Et le vote. Alors, je ne dis pas le vote obligatoire, mais pourquoi pas y travailler ? Si on instaure des droits et des devoirs entre les citoyens d'aller voter et les politiques, qui ont aussi des devoirs...
Bah, reconnaît le vote blanc, alors. Hein.
Mais je suis d'accord avec la reconnaissance du vote blanc.
Non, mais la vraie, c'est-à-dire on le compte, on le compte vraiment. S'il n'y a pas le quorum, l'élection est annulée.
Il y aurait peut-être plus d'abstention.
De gens pour aller voter.
Et il y aurait plus de champs et moins de votes contestataires, ce qui ferait monter moins des partis qui paraissent contestataires.
Il est 18h42, livrez-vous sur Sud Radio. Présidentielle 2022, craignez-vous une abstention record ? Vous êtes 50,4% à dire oui, vous voulez réagir. Le 0826 300 300, les réseaux sociaux, on se retrouve pour la suite du débat.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Olivier d'Artigol. C'est notre grand débat. Ouais. Présidentielle 2022, craignez-vous une abstention record ? Ça passe de 50,3 à 50,4 et de 50,4 à 50,3 avec nous Aurélie Gros pour un ministère des citoyens, un livre préfacé par Éric Revel. Justement, vous vouliez réagir, Françoise Degois.
Je voulais vous dire, Aurélie, que je suis absolument d'accord avec ce que vous dites, sauf je suis d'accord surtout avec Annie, Olivier, sur la mutilation du débat politique. Quand on organise la binarité comme ça, il y a le camp du bien et tout le reste, finalement, c'est le camp du mal, des archaïques et des mormons, avec la complicité d'un certain nombre de médias, d'ailleurs. C'est très éprouvant. Et le deuxième point, c'est que je constate que c'est la première fois qu'il n'y a pas de campagne télévisée pour inciter les gens à s'inscrire sur des listes électorale. C'est encore... tout cela, mais moi, c'est mon point de vue d'éditorialiste politique très politisé, tout cela procède pour moi du cynisme total d'Emmanuel Macron.
Mais c'est ce que pensent les Français. D'un côté, pourquoi ils ne vont pas voter ? Parce qu'ils pensent que les politiques sont cyniques, qu'ils ne pensent qu'à leur gueule. Je suis désolée, hein, mais c'est ce que pensent les Français. Dans de nombreuses réunions, on en a fait des centaines sur tout le territoire, sur tous les départements. Ils pensent que les politiques, ils sont là pour eux, rien que pour eux, et qu'en fait, les Français, ils en ont rien à faire. On regarde, ils ne se sentent plus représentés. Si on regarde à l'Assemblée nationale, ils ont l'impression de ne pas être représentés. Il y a des promesses qui ont été faites.
Sur la proportionnelle ?
Sur la proportionnelle, qui est une vraie demande. Je crois qu'aujourd'hui, les Français veulent de la proportionnelle. Et on ne met rien en place. Donc ils disent, en fait, ils font leurs élections, ils ont qu'à se démerder entre
Emmanuel
eux.
Macron l'a promise pour le second mandat.
Mais les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Ça, c'était Charles Pasqua qui le disait. Philippe Bilger, l'Himalaya de la pensée des vraies voix.
Aurélie, tout à l'heure, quand j'ai fait référence au ministère des citoyens, pardonnez mon ignorance, je ne savais pas que vous étiez impliqué dans un mouvement qui s'appelle le ministère des citoyens, qui est une très bonne idée. Mais je voudrais revenir sur la proportionnelle. Est-ce que vous ne croyez pas que ce serait tout de même l'instrument le plus immédiat et le plus efficace pour redonner le goût de la politique aux citoyens qui l'ont perdu. Parce que ce hiatus, ce gouffre entre le pays réel et le pays parlementaire, c'est tout de même accablant.
Aurélie Gros.
Je pense qu'effectivement, en tout cas les propositions que j'ai formulées, c'est qu'effectivement qu'il y ait une dose de proportionnelle, c'est un médicament immédiat. Par ailleurs, je pense que toute grande réforme dans le pays doit être précédée d'une phase de concertation sur le territoire au plus proche des Français. On ne peut pas gouverner un pays contre son peuple. Or, depuis 5 ans, ça, c'est le cas. Je veux dire, clairement, on a vu les Gilets jaunes, on a vu l'émergence d'un grand nombre de collectifs. C'est un message qui est clair. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle l'ensemble des candidats. C'est pour ça que, personnellement, je n'ai soutenu personne. Je n'ai pas apporté mon soutien, puisqu'on est non-partisans. Mais on fait un appel à l'ensemble des candidats pour qu'enfin, ils consacrent le début de leur mandat à un sommet citoyen, à Marseille et non pas à Paris, et qu'on écoute enfin ces bénévoles, ces associations, ces citoyens engagés, et qu'on montre qu'on a décidé, en tant que politique, de changer notre regard sur la politique et de faire évoluer les choses. Donc, de la proportionnelle, des droits et des devoirs, la reconnaissance du vote blanc, évidemment, et aussi des grandes phases de concertation pour aller au plus proche des territoires. Je crois que les Français sont prêts.
Après l'intelligence himalayenne de Philippe Bigère, l'intelligence pyrénéenne, mais c'est aussi haut que les
Himalayas, les Pyrénées. Le dosso est beaucoup moins haut, je demande, Philippe. Tout ce qui a été dit est juste. Il y a beaucoup de travaux parlementaires, de travaux de politologues, qui ont pointé tout ça. Moi, je pense que le quinquennat, l'inversement du calendrier, la pipolisation, la personnalisation en outrance de la vie politique, etc. Bon. Quand j'ai un gros coup de blues concernant la politique, ce qui peut arriver, je passe toujours des coups de téléphone à des copains qui sont maires, à Philippe Rio, à Patrice Bessac. À des copains maires dans de la ruralité. J'étais à mon copain l'Espade, Marc, à Tarnos, dans les Landes. Et j'adore leur demander une chose. Qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Et ce qu'ils peuvent dire, le récit qu'ils font, y compris combien ça peut nous renourrir en imaginaire de politique, d'activité citoyenne, des choses où des fois c'est dur et ils réalisent, des fois ils reculent, mais après ils voient que ça, des choses avancent de manière spectaculaire, des réalisations, des consultations, des acteurs qui ne se parlaient plus. Par exemple, il y a eu dernièrement dans l'UMA ou l'IB, je ne sais plus, sur la question de la sécurité. Ils ont fait l'éclairage sur 2 villes, dont Angoulême de mémoire, où l'ensemble des acteurs du territoire se sont mis autour de la table. Force de l'ordre, mais justice, acteurs sociaux, tout le monde. Et ils ont obtenu des résultats réels, probants, sur la baisse de l'incivilité, des formes d'insécurité. Donc c'est possible. Et il faudra un jour... véritablement la réforme institutionnelle, parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Il faut quand même une réforme institutionnelle. Moi, on me dit chaque fois, Olivier, tu peux pas dire ça, je ne suis pas proportionnel intégral. On me dit, il n'y a pas de majorité, tout ça, je m'en fous. C'est-à-dire, après, il peut y avoir des majorités de projets. Voilà, il faut assumer ça.
Non, aussi, j'assume proportionnel. Pas intégral, peut-être
bon,
pas, mais en tout cas...
Il faut assumer ça, ça peut être après des projets. Bon, vous ne pouvez pas mettre une dose plus. Mais en tout cas, il va falloir retrouver un discours positif plutôt que les chouineries permanentes sur la crise de la politique, sur « il y a à portée de main des solutions ».
Bah, lisez mon livre.
Aurélie Gros qui ne chouine pas.
Non, moi je suis une positive, une idéaliste, j'ai envie que les choses changent et je porte la bonne parole parce que je pense qu'il faut aussi être comme ça, sinon on arrête et on passe à autre chose, il faut toujours être positif. Je suis tout à fait d'accord avec vous, quand on regarde les maires, d'ailleurs c'est les seuls élus qui sont encore considérés et c'est pour ça que ce que je propose, c'est aussi de réconcilier la jeunesse qui est un petit peu très très loin des problèmes
de politique. Elle dit qu'elle va voter,
mais moi ce que je propose c'est de les mettre, on voit les conseils municipaux des jeunes, c'est des choses qui marchent
ça
bien.
Ça fait longtemps que ça marche, vous savez, le budget participatif en Poitou-Charentes, Ségolène l'a inventé il y a 15 ans, c'est extraordinaire. On vous donne cette somme et vous en faites ce que vous voulez, c'est génial, franchement. Bah oui.
Oui, non, mais je suis d'accord, c'est pour ça que je fais des compliments sur ce qui marche déjà bien, mais je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin et je pense que de proposer une citoyenneté accompagnée dès l'âge de 16 ans et de proposer aux jeunes de 16 ans de pouvoir venir voter aux élections municipales, je parle bien des élections municipales, ce qu'on appelle le droit de vote accompagné, on a bien le permis de conduire accompagné, donc nos jeunes de 16 ans qui sont encore dans l'Anville, qui s'intéressent au projet, ça leur peut
dans
ça leur
donnerait... Dans une autre vie, j'ai mis en place le Conseil local des jeunes à Pau.
Oui.
Et bien, je peux vous dire, c'est formidable.
Mais c'est formidable.
Moi, j'ai géré le budget participatif en Poitou-Charentes, c'est génial. Vous leur dites, vous avez tant d'argent et vous faites ce que vous voulez avec, et bien, ils sont super et en plus, ils ont plus d'idées que nous, les vieux.
Et on peut rajouter le fonds d'amendement. Comme ça, ça permet, avec les budgets participatifs, avec les budgets des citoyens, de rajouter des fonds d'amendement quand un projet est porté, comme ça, par les citoyens.
Merci beaucoup, Aurélie Gros, auteur de « Pour un ministère des citoyens, la nouvelle fabrique des idées » publiée aux éditions de l'Aube, un livre préfacé par notre ami Éric Revel, qu'on salue. Verdict sur Twitter, présidentielle 2022. Craignez-vous une abstention record et vous êtes 50,3% à dire non. Mon cher Philippe Rossi, bonsoir.
Rebonsoir.
La Ligue contre la violence routière vend debout contre le retour à 90 à l'heure sur certaines routes de l'Hérault.
Eh oui, depuis septembre dernier, 350 km de routes départementales de l'Hérault sont nouveau limités à 90. Alors, ça représente à peu près 8% du réseau routier du département. Et pour la Ligue contre la violence routière, repasser à 90 est une décision particulièrement dangereuse. La Ligue contre la violence routière de l'Hérault, qui a déposé des recours auprès du tribunal administratif de Montpellier, Nicolas Gou est avec nous. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir Nicolas Gou. Vous êtes président de la Ligue contre la violence routière de l'Hérault. Selon vous, le département n'aurait pas suffisamment étudié la dangerosité ou non des routes dont la limite de la vitesse est repassée à 90?
Tout à fait. D'ailleurs, je tenais à rectifier, le relèvement à 90 s'est produit en septembre 2020. Donc voilà.
Ça fait un an et demi, 18 mois.
Voilà, ouais. Tout à fait. Donc effectivement, c'est ce que le rapporteur public du tribunal administratif hier a rendu dans ses conclusions, à savoir qu'effectivement, la motivation du département pour effectuer ce relèvement de vitesse n'était carrément pas basée sur les données d'accidentalité par tronçon considéré.
Alors Maître Péchon, l'avocat qui représente le département, explique sur les 33 itinéraires retenus pour faire repasser la vitesse à 90, seulement 25 ont été retenus par le préfet car les autres ne répondaient pas aux critères de sécurité. Donc selon lui, ça a été étudié quand même.
Oui, sauf que ce qui se produit, c'est qu'effectivement, les tronçons en question sont malgré tout extrêmement accidentogènes, que ces tronçons en fait qu'on considère comme des belles routes en réalité sont des routes les plus fréquentées et les plus circulées du département, et c'est aussi celles où se produisent la majorité des accidents. Vous avez 53% des accidents sur le département de l'Hérault qui se produisent sur seulement 11%. Du linéaire. Et là, dans le cas d'espèce, c'est effectivement ce linéaire qui est concerné en premier chef.
Vous dites d'ailleurs, plus une route est belle, plus on a tendance à rouler très vite.
Tout à fait, oui. Il y a un sentiment de sécurité qui est humain, j'allais dire, mais qui pousse les conducteurs à accélérer beaucoup plus que s'ils étaient sur des routes extrêmement sinueuses, comme on peut les connaître dans l'arrière-pays. Voilà, donc ce phénomène. Alors ce qui est pas plus dommageable, si vous voulez, c'est que le département de l'Hérault a connu une augmentation de l'accidentalité entre 2019 et 2021. On ne peut pas comparer avec 2020, bien sûr. Et vous avez 67% d'augmentation. On est passé de 70 victimes à 75, alors que dans le même temps, au niveau national, il y a une baisse de 10%. Et ces données donc, ont été consolidées par l'Office national interministériel de la sécurité routière sur le bilan 2021. Il a parfaitement décrit que les routes qui étaient restées à 80 étaient celles où il y avait une baisse de l'accidentalité.
Ouais. Donc la limitation à 80 km/h a permis de sauver des vies, c'est ce que vous nous dites, c'est ce que vous avez constaté, c'est ce que les chiffres constatent. En tout cas, tiens, je rappelle que l'Aude et le Gard, eux, ont fait le choix de garder l'ensemble de leur route départementale à 80 km/h. Merci. Merci à vous, Nicolas Gou, président de la Ligue contre la violence routière du département de l'Hérault. Merci.
Merci beaucoup. Tout de suite, nos deux vraies voix du jour. Ah bon, on va rester dans l'Hérault puisqu'on aura Ludovic de Montpellier. On n'ira pas très loin avec Fred Dugard. Ils veulent parler de nos deux sujets du jour, notamment Mbappé. Est-ce qu'il a eu raison de boycotter certains la séance de shooting pour boycotter certains sponsors? Et évidemment, on va parler de l'abstention aux élections. Restez bien avec nous, les vraies voix.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Ils sont restés avec nous. Olivier d'Artigol, chroniqueur politique de gauche, et Philippe Rossi, direction Montpellier. Bonsoir Ludovic.
Oui, bonsoir.
Et vous voulez parler de notre premier débat, boycott de certains sponsors de l'équipe de France. Comprenez-vous Kylian Mbappé qui a boycotté certains sponsors qu'il avait refusés en tant que sponsor individuel. Et pour vous, vous pensez que les joueurs ont pris le pouvoir dans le football actuel ?
Moi, ce que je comprends, c'est que les questionnements et la problématique, c'est surtout multiple. En fait, ce qui me dérange, c'est vraiment par rapport à la fédération. Parce que comme j'entendais un petit peu plus tôt cet après-midi sur votre antenne, il y a des subventions, il y a des partenariats, il y a un côté économique qui est vraiment très important pour la fédération, pour le fonctionnement du football amateur, pour tous les salariés qui y travaillent, pour voilà, la fédération c'est la vitrine quand même du foot en France. Et puis après, ben oui, pour Mbappé, lui, il est alors déjà, je trouve que en fait, ce qui me dérange aussi, c'est que les joueurs aujourd'hui, ils sont hyper entourés, ils sont ultra entourés. Il y a vraiment une tribu tout autour de chaque joueur qui défend les intérêts, etc. Avec l'image par rapport à Kylian Mbappé aussi, j'ai entendu que ben lui, il peut se permettre parce que c'est une star planétaire et que voilà, on comprend ça. Donc si lui,
je vais faire un petit trait d'humour. C'est sûr que ça aurait été le troisième gardien, ça aurait pas fait le même effet.
Après, il a pas envie, voilà, de s'associer avec ces images-là qui refusent en plus à titre personnel. Mais après, voilà, pour l'équipe de France, je me demande aussi, bon, ben, on a aussi des obligations quand on rejoint l'équipe de France, une fierté, donc on doit aussi se plier sur certaines règles. Donc en fait, comment on fait quand un joueur rejoint l'équipe de France et qu'il a pas envie d'apparaître, je sais pas, au niveau des conventions, qu'est-ce qui est décidé, qu'est-ce que la fédération peut imposer ou ne peut pas imposer. Après Kylian Mbappé, on va pas se passer lui dans l'équipe de France, etc. Ça reste du côté partenariat, du côté sponsoring, etc. Donc voilà le problème. Après, je trouve ça très noble de la part de Kylian Mbappé ce qu'il fait pour le côté générosité aussi, etc. qu'il a.
Ah bah, il donne tout son argent de l'équipe de France à des associations caritatives.
Ouais, il y a une image aussi qui veut conserver, et c'est très bien. Mais du coup, pour la fédération et pour le bien commun, pour le foot en France, pour l'équipe de France, qu'est-ce qu'on fait? Franchement, moi, j'ai pas de réponse claire et nette à apporter. Mais c'est vrai que ça me dérange un petit peu parce que, comme je vous dis, quand on rejoint l'équipe de France, on peut un peu se plier à certaines règles et à ce qu'a décidé aussi la fédération inter-sponsoring, même si forcément hein, sur les partenariats, il y a le côté économique et puis il y a le côté après quand on voit est-ce qu'on va s'associer à un organisme qui va défoncer la planète à 6000 km de chez nous. Voilà,
ou payer les gens à 2 euros la course pour des livreurs.
On fait quoi? On va au Qatar ou pas? Est-ce que Sud Radio va couper la Coupe
non, mais
du monde
j'ai
Qatar,
posé la question. C'est, si on pose la question de l'éthique, on doit se poser la question de la Coupe du Monde au Qatar.
Ah, parce qu'il va y aller, Kylian Mbappé, au Qatar. Il se posera pas de questions, là, pour le coup.
Bah là, je pense pas, non.
Bah voilà. Donc, c'est soit on y va et on y va à 100%, c'est-à-dire qu'on boycotte certains sponsors et puis on dit aussi, bah moi, ça me pose un problème d'aller jouer la Coupe du Monde au Qatar. Mais on peut pas boycotter certains sponsors et puis, non, je sais pas ce que vous en pensez, Olivier d'Artigol, et puis aller au Qatar comme ça, jouer pendant 3 semaines. Alors, ceci dit, c'est vrai qu'il Mbappé, il n'a pas trop de risques, mais il risquerait de donner l'exemple à certains autres joueurs qui pourraient aussi boycotter mais certains
exactement.
Sponsors.
Bordel, on fait quoi après alors?
Eh oui.
Quand le joueur décide, etc., il ne peut plus y avoir de sponsor pour la fédération, puisque ouais. Tout le monde va venir avec ses intérêts.
C'est un problème.
Mais c'est un vrai sujet que pose Ludovic, Olivier
d'Artigol. Ludovic, il pose la question de la cohérence. C'est-à-dire que oui. Si on va... Sur cette dans cette direction-là, allons jusqu'au bout.
Voilà. C'est ce que j'avais dit dans mon intro. Vous
allons
peut-être.
Jusqu'au bout. Bon, on sait bien qu'on ne va pas aller jusqu'au bout. Je ne vais pas refaire le débat de tout à l'heure, mais est-ce que cette intervention pourra sensibiliser sur l'ubérisation du travail, sur certains... Bon, voilà, mais je... Bien évidemment, tout ça pose des questions vertigineuses. Celle du Qatar que vous posez en étant une énorme. Hein.
Juste... Oui, allez-y, Ludovic.
Pardon, je fais partie d'une association, les baroudeurs du sport, je m'en suis notamment l'équipe de France, et on est tous vraiment très tristes de la Coupe du Monde au Qatar, et franchement, nous qui suivons les Bleus, la Coupe du Monde en Russie, etc., là, on se pose vraiment de vraies questions.
Oui, qu'est-ce que vous allez faire, alors?
Voilà.
Ludovic, qu'est-ce que vous allez faire? Vous a demandé Olivier d'Artigol. Vous allez boycotter les matchs?
Ben boycotter, non, je sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, on n'a pas encore au niveau de la mise en vente des places, c'est pas sorti, mais on est toujours dans l'incertitude. On sait pas.
Je voudrais vous poser une question parce que on aime bien taper sur les footeux parce que ils sont très populaires, parce qu'ils sont très riches, etc. Mais la Coupe du Monde au Qatar, ça fait couler beaucoup d'encre. Il y a même pas un mois, il y a eu les Jeux Olympiques d'hiver en Chine. quand on voit comment la Chine traite les Ouïghours, quand on voit comment la Chine a réprimé le printemps de Pékin en 89, quand on voit les droits de l'homme en Chine, est-ce que quelque part, on n'a pas des indignations un peu à géométrie variable ? Parce qu'on n'a pas demandé aux skieurs de ne pas aller à Pékin, on n'a pas demandé aux patineurs de ne pas y aller, etc. Vous voyez ce que je veux dire ?
Mais c'est évident, c'est évident. Donc en fait, on place le curseur à chaque fois, j'ai l'impression, en fonction des intérêts. Pareil, pour la guerre en Ukraine, aujourd'hui c'est pareil. on ne peut pas de toute façon allier les intérêts économiques, notre volonté en termes de loisirs, et puis à côté l'éthique en pensant... voilà, est-ce que, ben oui, quand on va s'asseoir dans les tribunes là-bas, dans les stades au Qatar, et qu'on pense à tous les gars qui étaient payés une misère, certains qui ont laissé la vie
pour... Plus de 6 000, je crois, donc ça fait quand même beaucoup.
Ça ne nous dérange pas de se boucher le nez quand il y a des grands enjeux économiques, c'est tout.
Exactement, oui.
Ça s'appelle la réelle politique.
Bah voilà, c'est ça.
En fait, c'est tous les jours. On mange un burger, etc. Est-ce qu'on va penser, du coup, après à la condition animale et toutes ces vidéos publiées par L214, tout le temps, tous les jours, de toute façon, à chaque instant, quasiment tout ce qu'on fait, on doit justement trouver, par rapport à nous, le degré d'acceptation par rapport à ce qui va être, pour nous, en termes de valeur, bien ou pas bien.
Olivier Dartigolle, le mot de la fin. C'est vrai que c'est à géométrie variable, parce que les Jeux Olympiques en Chine, c'est pas terrible.
Non, mais qu'il y ait beaucoup d'hypocrisie et beaucoup de...
Non, oui, l'hypocrisie en politique, ça n'existe pas.
Bien sûr, dans les affaires du monde. Les affaires du monde. Je sais pas pourquoi je vous écoutais tout à l'heure, c'est un esprit d'escalier, vous parliez de 58 et des footeux. Mais en 58, il y a aussi les rugbymen qui étaient partis en Afrique du Sud.
Absolument. C'est la première victoire d'ailleurs des Bleus en Afrique du Sud.
Mon ami François Monclat et la prime de match...
Qui est décédé récemment d'ailleurs.
Récemment. Et la prime de match, c'était un timbre pour envoyer des nouvelles à la famille en Béarn.
Excellent.
Vous vous rendez compte.
Ah, c'est sûr que c'est pas le même montant que 550 000 euros.
Et disait notre prime de match, c'est battre les Sud-Africains. Ils avaient fait d'ailleurs de belles parties.
Ils les avaient battus pour la première fois.
Ouais.
Ils avaient fait toute une tournée.
Bon, le sport, et puis il y avait aussi une... C'est là où François Monclat est sensibilisé à ce qu'est l'apartheid. Et il revient, ça l'a après beaucoup accompagné dans sa vie, notamment pour lutter contre le racisme dans le sport. Mais bon, il faut parfois saisir dans l'actualité des moments où on peut discuter de tout ça, même si la direction prise est plutôt le sport business.
Merci beaucoup Ludovic de Montpellier. Merci à vous. Direction Perpignan, bonsoir Xavier.
Bonsoir toutes et tous.
Et vous voulez nous parler de l'abstention et vous êtes abstentionniste, ça c'est intéressant.
Alors je suis abstentionniste, mais depuis pas si longtemps que ça, je suis abstentionniste depuis le second tour de 2017. Ah. Parce que voilà, je n'ai pas voulu choisir entre Madame Le Pen et Monsieur Macron, parce que je sentais bien que Monsieur Macron, il allait nous sortir des lapins de son chapeau. Parce que je suis un électeur qui a toujours voté à gauche. Et donc j'ai refusé de voter, soi-disant, contre Le Pen... Donc, je n'ai pas voté au deuxième tour de 2017.
De faire barrage, comme on dit. Et vous avez de faire barrage, comme on dit. Et vous avez raison, il y a eu beaucoup de lapins qui sont sortis du chapeau. Oui.
Exactement.
Mais je vous redonne la parole, Xavier. Oui, vous n'avez plus voté depuis la présidentielle 2017, c'est-à-dire, vous avez fait l'impasse sur les municipales, sur les législatives.
Non, juste pour les présidentielles.
Ah,
non, j'ai voté au municipal. Oui, non. J'ai même tenu un bureau de vote au municipal.
Ah, bah d'accord, c'est tout à votre honneur.
Tout vous dire. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que cette fois-ci, quand je vois l'offre que l'on me propose, je ne me retrouve plus. Parce que M. Mélenchon, pour qui j'avais voté au premier tour en 2017, depuis, il est devenu wokiste. Il est devenu. Contre la criolisation, mais déjà le terme paraît tellement bizarre. Hein, et puis l'islamo-gauchisme, c'est vrai que c'est pas trop ma tasse de thé non plus. À droite, évidemment, je vais pas voter à droite, j'ai jamais voté. Mais en plus, quand j'entends que M. Guillaume Larrivé dit il y a peu, vous en avez déjà parlé, il y a de fortes convergences entre le projet LR et celui de M. Macron.
Il l'a dit, on l'a fait hier comme sujet de grand débat.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que comment on peut voter, quoi ? Ça ne sert à rien. Je veux dire, ça ne sert à rien de voter pour l'un ou pour l'autre, puisque finalement, c'est la même salade qui va revenir.
Philippe Rossi, c'est vrai, c'est quand même très intéressant ce que dit Xavier. Quand on voit le comportement des politiques, là, on peut dire que « protégez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge », disait Napoléon Bonaparte. Quand on voit la ferrière de Guillaume Larrivé, en clair, il dit que le vote utile, c'est vote Macron, ça découle des gens de la politique.
Mais en fait, il y a ceux qui ne veulent pas revoter pour Emmanuel Macron, donc revivre un même quinquennat, voire pire, ils ne veulent plus faire barrage, comme avait dit Olivier Dartigolle. Donc ils vont s'abstenir, ils ne vont pas du tout aller voter. Puis il y a ceux qui disent, c'était un sondage Elabe, je crois que ça concernait 40% des sondages, Condé qui se dit de toute façon, peu importe qui arrive à l'Élysée, ça ne changera absolument rien à mon quotidien. Donc je ne vais pas voter cette année. Et c'est pour ça qu'on attend malheureusement, alors on verra le 10 avril, une abstention record, peut-être même pire qu'en 2002.
Olivier d'Artigolle.
Ou pas, après, ou pas ouais.
L'incertitude.
On ne sait pas, on ne sait pas.
Ça. En fait, on ne sait pas. Est-ce qu'il y aura une. Bon, on l'a dit tout à l'heure, une. On ne sait pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir auprès de notre auditeur, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous puissiez repartir sur un vote à la présidentielle ? Et est-ce que vous allez voter aux législatives ?
Écoute, alors déjà, je vais répondre à la deuxième question. Oui, je vais voter aux législatives, parce que de toute manière, si on ne peut pas éviter Macron, si on peut éviter les députés de La République En Marche, j'irai voter parce que franchement, ils se sont moqués de nous.
Oui, on a eu des cas sévères.
Ils se sont moqués de nous en permanence et notamment les députés LRM de mon département, les Pyrénées-Orientales, avec le fameux monsieur Romain Gros qui a joué les victimes. Oui, il a été agressé, c'est vrai. Il en a rajouté, croyez-moi, il en a rajouté.
Alors ça, c'est votre point de vue. Hein.
Voilà, alors, c'est mon point de vue.
Je voudrais vous poser une question. C'était une femme qui n'était pas fondamentale. Mentalement à gauche, elle s'appelle Marie-France Garraud. Elle disait il y a quelques années dans une émission de télé que la rupture démocratique avait lieu lorsque le Parlement a voté le traité de Lisbonne en s'asseyant sur le vote référendaire des Français du 29 mai 2005. J'ai revu la vidéo il y a quelques jours et ça m'est revenu à l'esprit en discutant avec vous, Xavier. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ah ben je suis tout à fait d'accord. J'ai fait partie. Moi j'avais voté contre. C'était pour Maastricht, je crois, le premier vote.
C'était 92,
ça. J'avais voté contre. Finalement, on a voté à la majorité contre. Et on a quand même eu l'Europe. Parce que l'un des mots que nous avons aujourd'hui, c'est le problème de ces directives européennes pour tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça aussi que les gens, moi, je commence à devenir anti-européen. Parce que franchement, par moments, on se demande, mais que vient faire l'Europe pour la taille des pizzas ? Non, mais je me souviens plus très bien. C'est pas la taille des pizzas, mais il y a une histoire avec.
C'était l'épaisseur des rondelles de salami, je crois, mais c'est pas grave.
Non, mais sérieux, c'est vrai que c'est on peut plaisanter, mais apparemment, j'ai trouvé ça en cherchant un peu, qu'il y a eu les 50 directives les plus loufoques. Ouais. Vous pouvez le retrouver hein, en tapant sur Google, vous verrez. Il y a 50 directives européennes qui sont complètement loufoques. Et donc ça aide aussi à ce que l'anti-européanisme progresse parmi la population. Et pas qu'en France d'ailleurs, hein, parce que moi je suis pas loin de l'Espagne, en Espagne aussi, ils sont de moins en moins européens quelque part. Hein.
Philippe Rossi, c'est vrai que ça comme était une rupture quand même, non ?
C'est-à-dire que les Français se rendent de plus en plus compte, parce que ça c'est depuis une dizaine d'années à peu près, qu'effectivement on est tenu par l'Europe, par des directives. Alors vous parlez des directives loufoques, mais il y a des directives qui sont moins loufoques, et c'est vrai qu'on se demande finalement quelle est la marge de manœuvre du chef de l'État, c'est-à-dire qu'entre les promesses non tenues et les promesses qui pourraient être mais qui ne vont pas dans la direction de l'Europe, finalement, alors à quoi il sert le chef de l'État ? En quoi ça va changer le quotidien des Français ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Vous avez raison, on peut devenir un petit peu anti-européen, puis on s'abstient pour voter à l'élection présidentielle.
Mais c'est vrai, allez-y Xavier,
vous avez vu, il n'y a pas longtemps, la Commission européenne a décidé d'envoyer des armes en Ukraine. Alors je suis pour, évidemment, contre Poutine et pour défendre les Ukrainiens, mais est-ce que c'était vraiment le rôle de la Commission européenne de décider ça ? Est-ce que ce n'est pas les États, les représentants donc des gouvernements français, des 27 pays, à décider d'envoyer des armes en Ukraine et non pas la Commission européenne ? Est-ce que là, elle n'a pas surpassé ses droits ?
Olivier d'Artigolle.
Je me pose la question.
Et la Commission européenne, d'abord, n'a pas la possibilité, elle, de livrer des armes. Après, chaque pays, d'après ce que j'ai pu comprendre, garde sa souveraineté et décision pour participer au dispositif ou pas, encore.
Oui, mais c'est Madame Erlène
von der Leyen.
Ursula
von der Leyen.
Qui a annoncé l'envoi d'armes.
Absolument. Absolument. Merci beaucoup, merci. Xavier de Perpignan. On remercie également Ludovic de Montpellier. Merci beaucoup, Olivier d'Artigolle. Philippe Rossi, on vous retrouve tout de suite pour les.
Devenir vrais... plus utile. Devenir plus utile. Avec DGF Faubertier, on va parler des jumeaux. Ce soir, et oui, vous saurez tout sur la gémellité. On aura deux jumeaux avec nous, ce sont deux humoristes. Évidemment, dans leur stand-up, ils parlent de leur gémellité. Ce sera un formidable témoignage dans quelques minutes. Il y aura des spécialistes autour de moi et DJF Audebert. Devenir plus utile dans quelques minutes, mais dans l'immédiat. Et comme chaque soir, ces conseils de famille avec Stéphane Moller.